Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jésuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Que la solution existe.
Rendons grâce à Dieu pour sa faveur sur chacun de nous et confions-lui notre séance de ce soir en le priant de prendre lui-même les devants, de nous éclairer, de nous instruire, de nous équiper pour pouvoir être de bons disciples et pour pouvoir faire sa volonté. Il fait tous les jours de bonnes et de merveilleuses choses pour nous. Tous les jours, nous voyons qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir et nous devons persévérer et faire preuve de plus en plus de zèle, confiant qu'il est fidèle pour faire tout ce qu'il a promis de faire. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur comment être disciple de Jésus par le Saint-Esprit. Il y a dedans deux dimensions. Il y a être disciple de Jésus et il y a par le Saint-Esprit. Comme je l'ai annoncé dimanche dernier, je vais faire ce soir un rappel de l'enseignement sur le Saint-Esprit, afin de permettre à ceux qui n'ont pas encore eu la grâce de faire le baptême du Saint-Esprit, de pouvoir faire le baptême du Saint-Esprit. Mais cet enseignement sur le Saint-Esprit va quand même aller avec l'enseignement que nous étions déjà en train de faire sur l'évangélisation. Et être disciple de Jésus, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit les enseignements d'un maître, qui les met en pratique, qui est un imitateur de son maître, et qui est aussi quelqu'un qui est en train d'être préparé pour prendre la relève de son maître. Donc, être disciple de Jésus, c'est non seulement avoir reçu Jésus, recevoir sa parole, la comprendre, la pratiquer, et tous les jours vivre pour l'imiter, tous les jours vivre pour le remplacer, pour continuer et achever l'œuvre qu'il a entamée et qu'il est parti en nous demandant de terminer. Et j'insiste de plus en plus sur la notion de disciple parce qu'effectivement, je crois que c'est ce qui manque à l'Église. L'Église que je définis comme étant la communauté universelle de ceux qui croient en Jésus, je ne parle pas des dénominations, semble très peu active. Et parce qu'elle est très peu active, elle n'accomplit pas le quart de la mission qui lui est dévolue. L'Église n'est pas et ne devrait jamais être le lieu où quelques personnes se rencontrent tous les dimanches pour faire un rituel ou un cérémonial protocolaire. Oh, c'est ce que l'Église est devenue. n'est pas le lieu où, quand on ne sait pas où porter ses habits, pour que quelqu'un voit qu'on a de nouveaux habits, on devrait les porter pour aller. L'église n'est pas un endroit où on devrait aller pour se donner bonne conscience. Et l'église est une armée. L'église est une unité d'élite. L'église est une ambassade du ciel sur la terre. Et comme toute ambassade, elle a vocation à exercer sur la terre l'autorité du ciel. Tout ce que les hommes attendent de Dieu, ils devraient pouvoir la trouver à l'église. Quand je suis citoyen français et que je suis au Bénin, tout ce que j'attends de la France, normalement, si notre ambassade est une bonne ambassade, l'ambassade de la France au Bénin est une bonne ambassade, quand je vais à l'ambassade de France au Bénin, elle doit pouvoir me rendre, ne serait-ce qu'à petite échelle, ne serait-ce qu'à demander que ça vienne de la France et à me demander de patienter quelques jours, quelques semaines. Une vraie ambassade doit pouvoir représenter valablement le royaume dont elle est l'ambassade et jouer pleinement son rôle de pourvoir aux besoins des citoyens de ce royaume. Mais aujourd'hui, l'Église n'est pas cette ambassade efficace. Les gens ont besoin de guérison, l'Église ne peut pas guérir. Les gens ont besoin de prospérité, l'Église ne peut pas donner la prospérité. Les gens ont besoin de paix, l'Église semble incapable de donner la paix. Les gens sont perdus, l'Église ne semble pas capable de pouvoir les éclairer. Le monde a plus que jamais besoin de voir la manifestation des vrais enfants de Dieu. Tous les jours, on crée une église quelque part dans un quartier. Et il y a quand même pas mal de gens qui vont à l'église. Mais on ne voit jamais dans la semaine les gens qui vont à l'église. C'est ça le vrai problème. Un chrétien ne doit pas pouvoir être invisible dans la vie. La plupart des gens sont chrétiens, à moins de les avoir croisés à l'église ou d'avoir vu une grosse Bible dans leurs mains, quand ils veulent montrer à quelqu'un qu'ils sont chrétiens, rien dans leur vie ne te permet de deviner que celui-là, ça doit être un chrétien. Des gens sont chrétiens, ils ont travaillé quelque part pendant 10 ans. Personne ne sait même qu'ils sont chrétiens, tellement ils ne se sont même jamais amusés à parler de Jésus en public, jusqu'à dire qu'ils vont essayer d'évangéliser un de leurs collègues. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous avons une église paresseuse. Une église de fainéants qui s'assoit tous les dimanches pour rendre rituel et pour ne penser qu'à elle, pour ne penser qu'à ses besoins, pour ne penser qu'à ce qu'elle demande à Dieu. Se foutant royalement de tout ce que Dieu lui dit par ailleurs. Et cette église, quoi qu'elle peut s'asseoir tous les dimanches, être bénie, sans rien faire pour bénir les autres. Parce qu'elle a tellement mal compris la parole de Dieu, qu'elle croit que Dieu peut les bénir indépendamment de la bénédiction de tout le monde. Cette église est tellement ignorante qu'elle ne sait pas que Dieu dit que nous sommes fils d'un même Père, que nous sommes membres d'un même corps. Qu'il n'y a qu'un seul corps, qu'il n'y a qu'un seul Père, et qu'il n'y a qu'une seule foi, et qu'il n'y a qu'une seule espérance. S'il y a une seule espérance, ça veut dire que ton espérance est mon espérance. Si ton espérance est déçue, la mienne est forcément déçue, puisque nous avons une seule espérance. Je l'ai déjà démontré ici, pour ceux qui se donnent la peine de venir ici les dimanches. Quand vous êtes membre d'un même corps, et qu'un seul organe est atteint, tout le corps est immobilisé, dépérit et meurt. Quand on dit que quelqu'un est malade, ce n'est pas que tous ses organes sont malades. Hein. C'est un organe sur une centaine d'organes qui a des problèmes. Ça suffit à envoyer tout le corps dans la tombe. À plus forte raison, quand 10 de tes organes sont atteints, on dit que tu as cancer généralisé, tu as ci, tu as ça. Bon, c'est un jour qu'on contente de dire ce gars-là, si vit 5 jours, c'est bon. Regardez l'église. Combien de membres sont gangrénés, pourris? Si ce n'est pas que Dieu même dans sa parole a écrit que les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre son église, je crois que si c'était humainement, il y a longtemps qu'on aurait enterré l'église. Comme le disait Carambéry dimanche dernier, il disait, mais aujourd'hui, il n'y a aucune différence entre les églises et les associations. Quelle différence y a-t-il entre les associations qui se regroupent une fois par semaine, et une église. Si c'est pour se réunir, bavarder, chanter, faire des rituels, déclarer des choses, dire qu'on croit en quelque chose, le monde fait ça tous les jours. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une église est une église? Si une église n'est qu'un groupuscule humain, qui n'a aucun pouvoir, qui n'a aucune onction, qui n'a rien de divin, pourquoi dites que vous voulez créer une association, retrouvez-vous tous les dimanches si ça vous plaît, mais ne dites pas que vous êtes dans une église. Une église doit être vivante. Une église doit être active. Une église, c'est des disciples de Jésus. Qui dit disciple, dit action, dit zèle, dit passion, dit obéissance, dit endurance, dit combativité, dit travail, dit résultat. Les chrétiens, quand ils disaient qu'il y a peut-être les prêtres et les pasteurs qui doivent travailler, quelques-uns, les intercesseurs, les évangélistes, des choses comme ça, et tous les autres chrétiens se considèrent comme des gens qui sont censés s'asseoir simplement, réciter des niaiseries qu'ils appellent des prières et imaginer que Dieu va les bénir. Vous pensez que Dieu est un idiot? La plupart des gens ne sont pas bénis et ne seront jamais bénis à cause de ça. Dieu dit qu'il vous sert comme vous servez les autres. Si votre vie est passée tout entière à ne servir personne, eh bien Dieu ne vous servira à rien. La parole de Dieu est têtue et Dieu dit qu'il y veille pour l'accomplir. Quand on dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, vous croyez qu'il ne veille que sur ses promesses pour les accomplir. Mais il veille sur toute sa parole pour l'accomplir. Et parce qu'il accomplit sa parole, quand vous vous comportez comme la plupart des chrétiens là se comportent, jamais vous ne serez bénis, à moins que Dieu soit mort. Il dit, allez dans tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Vous n'êtes même pas capable d'annoncer la bonne nouvelle dans votre bureau. Et vous dites, Seigneur, conformément à ta promesse, je demande telle bénédiction. Quel contrat y a en toi, lui? On a signé un contrat de 100 articles. Tu n'en respectes même pas deux. Et tu cites à Dieu tous les articles que lui doit respecter. Parce que toi, tu es qui? On signe un contrat de bail. Ça fait 10 ans que tu n'as pas payé ton loyer. Tu écris au propriétaire pour dire que le toit est défectueux, la maison n'est pas propre, puis il est promis qu'il doit venir faire des rénovations tous les ans et qu'on sort. On va te mettre à diaco parce que tu ne dois pas être très normal pour faire des choses comme ça. C'est ce que les chrétiens font à longueur de journée à Dieu. Ne rien foutre de leur part et croire que Dieu doit faire toujours la sienne. Un disciple, c'est tout simplement un chrétien qui est un vrai chrétien. Que vous regardez dans la Bible? Qui vous avez vu être chrétien parce qu'il avait juste un nom? Un chrétien vit un chrétien. Un chrétien, être chrétien, c'est une vie. Et donc, nous devons sortir de notre tête l'idée qu'un chrétien peut juste venir écouter la parole de Dieu, dire, ah, c'est bien, j'ai appris de bonnes choses, je vais appliquer pour moi, pour les autres, on verra. Il ne peut pas en Dieu avoir de dissociation entre votre bénédiction et celle des autres. Moins vous vous occupez du bonheur des autres, moins Dieu s'occupera de vous. Plus vous vous occuperez du bonheur des autres, plus Dieu s'occupera de vous. Plus vite vous le ferez, plus vite Dieu s'occupera de vous. Et le monde a intuitivement compris cela. C'est pour ça que le monde nous dit que ce que l'égoïste cherche sans le trouver, l'altruiste le trouve sans le chercher. Si vous n'êtes pas idiot, même le monde sait ça. Est-ce que vous savez ça? Les païens savent ça. Que ce que l'égoïste, parce que les chrétiens sont égoïstes, cherche toute sa vie sans jamais trouver, l'altruiste, c'est-à-dire celui qui s'occupe des autres, le trouve sans le chercher. Mais ça n'empêche pas chacun d'être vous pour la plupart d'être des fainéants. Entre deux dimanches, rien ne vous rappelle que vous êtes chrétien. Vous vous réveillez, vous mangez, vous dormez, vous vous foutez pas mal de ceux qui sont autour de vous. Vous croisez quelqu'un qui est malade, vous n'êtes même pas fichu de passer 5 minutes à prier pour lui. Vous ne faites même pas semblant d'essayer. Tu vois un gars qui est dans des problèmes pas possibles. Tu sais ce que la parole de Dieu a fait dans ta vie. Tu sais ce que la parole de Dieu peut faire. Mais tu es trop orgueilleux pour prendre 2 minutes pour lui parler, pour l'apaiser, pour le réconforter et lui demander de venir quelque part où on peut l'aider. Tu as peur que s'ils sont nombreux ici, il n'y en a plus pour toi ou bien c'est quoi? Ce que je dis est sérieux. Et là, je parle de la part de Dieu. Ça irrite Dieu de voir des gens qui ne s'occupent que d'eux-mêmes, se moquant royalement de tous les autres. Écoutez, quand on a demandé à Jésus comment il fallait prier pour être exaucé, il a donné une prière. Et la première phrase de cette prière, c'est « Notre Père ». Je suis sûr que si les hommes avaient dû composer la prière, ils auraient dit « Mon Père ». Il a dit « Notre Père ». C'est le Père à chacun de nous. Tu ne peux pas être dans une maison avec tes frères et tes sœurs. Tu es la grande sœur, parce que toi, tu connais le Père le premier, puisque tu es né le premier. Tes soeurs, tes petites soeurs, tes petits frères ont faim. Tu vas dans la cuisine, tu fais du riz, tu manges et tu te moques d'eux. Et ton papa arrive. Il dit, ça va bien? Oui, tu as mangé, oui. Et tes soeurs? Ah, je ne sais pas, ils sont là-bas. Et c'est toi la grande soeur. Comment va réagir ton papa? Et pendant que tu as laissé tes soeurs affamées, il est arrivé. Tu as le cœur, dit, papa, ça va bon. Eux n'ont pas mangé, ce n'est pas un problème. Mais moi, là, j'ai besoin de 2000 francs pour demain. Il va te donner? Ah, pourquoi vous riez? Et c'est ça que vous faites avec Dieu. C'est ça ce que vous faites au quotidien avec Dieu. D'être des aînés dans la foi, de vous moquer perdument du sort de vos frères, de vos sœurs, qui disent avec vous notre Père, qui ont le même Père avec vous, et d'avoir le culot de vous présenter devant Dieu pour lui demander d'autres choses. Quand vous n'êtes même pas assez gentil pour vous occuper de vos frères, même Père. Dis, Seigneur, pitié de moi. Quand tu n'as pas pitié de tes frères. Confie-moi de grandes responsabilités. Donne-moi de l'onction. Tu ne peux pas leur donner de l'eau à boire. Tu demandes de l'onction pour faire quoi? Vous croyez que Dieu va donner de l'onction à des irresponsables? Il dit à celui qui est fidèle dans les petites choses, on en confiera de grandes. Tu n'es même pas capable de partager ton gari avec celui qui a faim. Tu demandes à Dieu de te donner l'onction pour faire quoi? Tu fais quoi d'extraordinaire quand tu ne peux rien faire d'ordinaire? Dieu ne donnera jamais une onction extraordinaire à quelqu'un qui ne peut rien faire d'ordinaire. Ça ne sert à rien de prier si on n'est pas capable d'aimer les autres. On a vu ici tout le temps, la Bible dit, mais même si je me sacrifie par le feu, même si je m'immole, même si je vends tous mes biens, quoi que je fasse, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Vous mettez l'amour à la poubelle, vous courez derrière quoi, je ne sais. Si vous courez derrière Satan, je peux comprendre. Si c'est derrière mon Dieu, arrêtez de vous fatiguer. Il ne voit même pas vous regarder. Parce qu'il est tenu par sa parole. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et que veillant sur sa parole pour l'accomplir, il veillera à ce que vous ne soyez pas bénis tant que vous vous en foutez du bonheur des autres. Vous devez savoir que si nous sommes membres d'un même corps, la bénédiction de chacun ne tient qu'aux autres. Et la bénédiction des autres ne tient qu'à chacun. Un peu comme les mousquetaires, c'est forcément tous pour un pour tous. Il n'y a pas dans un corps un seul organe qui peut vivre sans les autres organes. Et il n'y a pas dans un corps un seul organe qui n'est pas décisif et indispensable pour les autres organes. Même l'anus, je le dis toujours, c'est l'organe qu'on méprise le plus. S'il se fâche qu'il attrape les hémorroïdes 48 heures, toi-même tu te rappelleras qu'il a une importance décisive pour ton corps. Et pourtant, voilà comment on le traite. Il n'y a pas un organe inutile. Il n'y a pas un seul organe qui ne soit pas nécessaire pour tous les autres et qui ne profite pas de tous les autres. Et dès qu'un organe ne fait pas son boulot, il crée des problèmes à tout le corps. Quand vous êtes des fainéants chrétiens au lieu d'être des disciples, vous détruisez, vous paralysez tout le corps. Et si chacun de vous n'est pas béni, c'est parce que chacun de vous ne fait pas son travail. Si chacun de vous ferait son travail, quand tu te mets à prier, tu viens ici un frère te dire, « Ah, ma soeur Déborah, j'ai rêvé hier, je t'ai vu, Dieu te disait tel. Ah bon, un autre frère te donne une prophétie. Tu prends cette prophétie, tu l'accomplis, tu as des choses. Quelqu'un se lève, il intercède pour un autre. Quelqu'un vient, il donne quelque chose à un autre. On serait tous en train de fonctionner. Ce serait de la magie ici. vous êtes tous pauvres, malheureux, parce que vous en foutez tous les autres. Et il en sera ainsi tant et aussi longtemps que vous foutrez des autres. Dieu ne descendra pas pour défier sa parole parce que vous êtes des fainéants. Et nous avons vu ici, parlant de Dieu, que Dieu est un esprit. C'est l'Esprit Saint. Dieu ne fait pas les choses. Dieu est. Souvent, vous cherchez tous le Dieu qui fait, le Dieu qui nourrit, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit. Il faut arrêter de vous blaguer. Dieu n'a jamais dit qu'il s'appelait Dieu qui guérit, Dieu qui pourvoit. Oui. Quand vous lisez la Bible, on n'a jamais demandé à Dieu comment tu t'appelles. Il a dit, je suis le Dieu qui guérit. Vous avez vu ça quelque part? C'est quand Dieu guérit quelqu'un, la personne dit, ah, Dieu qui m'a guéri. Les gens commencent à dire, Dieu qui guérit. Il donne la paix à quelqu'un, ah, le Dieu de paix. On dit, Dieu de paix. C'est les hommes qui nous ont donné des noms. Mais chaque fois qu'on a demandé à Dieu lui-même comment il s'appelle, il a dit, je suis. Il n'a jamais dit, le Dieu qui fait quelque chose. Les noms que les hommes donnent à Dieu vous induisent en erreur. Ils vous font croire que Dieu est comme les hommes. Il peut rester loin de toi et faire les choses pour toi. Dieu ne fait rien pour personne. Il est ou il n'est pas. C'est pour ça que quand Josué voulait attaquer le mur de Jéricho et qu'il a vu l'ange de l'Éternel, il a demandé à l'ange de l'Éternel si l'ange de l'Éternel est venu combattre pour lui. C'est-à-dire, si l'ange de l'Éternel est venu faire la guerre pour lui. Et l'ange de l'Éternel lui a dit, non, je ne suis pas venu faire quelque chose pour toi. Je suis venu prendre le commandement. Je suis venu être. Je suis venu te posséder. Je suis venu être la situation. Si tu ne veux pas que je sois la situation, que tu veux juste que je vienne faire quelque chose dans la situation, moi je ne suis pas dedans. Dieu ne peut pas faire quelque chose de durable pour vous s'il n'est pas durablement en vous. Dieu est, et quand il est, tout ce qu'il est, est. Si Dieu est en toi, la paix est en toi, la joie est en toi, la gloire est en toi, la prospérité est en toi, la santé est en toi. Tu ne veux pas courir derrière chacune de ces choses. C'est dans le monde qu'on court derrière les choses les unes après les autres parce qu'on veut les prendre. Mais quand Dieu vient, il est tout ce qu'il est, est. Écoutez, quand j'allume la lumière, je ne dis pas lumière éclair à gauche, éclair Paul, éclair Pierre, éclair devant, éclair derrière. Où il n'y a pas lumière, où il y a lumière. Si la lumière est là, elle éclaire forcément. Il ne peut pas y avoir lumière qui n'éclaire pas. C'est pour ça que Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. En tant que disciples de Jésus, nous devons éclairer le monde comme 1 Jean nous dit que lui-même était la lumière du monde. Est-ce que quand le jour se lève, vous la voyez discuter avec la nuit pour voir si la nuit a envie de partir? Quand la lumière vient, point final. Elle vient avec la clarté, elle vient avec le jour, et la nuit ne peut rien faire pour ne pas partir. Si vous êtes chrétien et les ténèbres sont autour de vous, c'est que vous n'êtes pas un chrétien. Ou vous êtes une lumière ou vous n'en êtes pas une. Papa dit, je suis une lumière, mais j'ai peur, je suis une lumière, je suis petit. La plus petite des lumières allumées dans l'obscurité fait partie de l'obscurité, même si c'est lampion. Donc tu ne peux pas être une lumière dans l'obscurité, on ne voit que l'obscurité, tu es un menteur. Il faut arrêter de te mentir à toi-même, en plus de mentir à Dieu. Si tu es dans un environnement où il n'y a que des ténèbres, c'est que tu n'es pas lumière. On ne peut pas mettre la lumière dans des ténèbres et la lumière va dire qu'il y a des ténèbres. Moi, je n'ai jamais vu ça. D'ailleurs, le monde dit qu'il vaut mieux allumer une lanterne que de maudire l'obscurité. Et les chrétiens qui sont des lumières passent le temps à maudire l'obscurité. A dit que le monde est monde, que le monde est mauvais, que le monde est diabolique, que le monde est satanique. Mais eux, ils sont quoi dans tout ça pour que le monde soit comme ça? Comment le soleil peut dire qu'il fait nuit? Que ce n'est pas normal, il est là, mais la nuit ne veut pas partir, la nuit persiste, la nuit est ténébreuse. Tu es soleil ou tu n'es pas soleil? Si vous n'êtes pas, eh bien vous n'êtes pas, Dieu est. Mais si vous laissez Dieu être en vous, tout ce que Dieu est sera en vous et vous allez le manifester. Et l'une des choses que j'ai le plus compris cette année, parce qu'avant je n'avais pas bien compris, c'est qu'il y a une seule manière de devenir un vrai chrétien, un vrai disciple de Jésus. De connaître le Père, de lui obéir, de manifester sa puissance, de grandir en lui, c'est de le recevoir. Il n'y a pas de manière. Tout ce qu'on fait, qui consiste à asseoir les gens pour leur parler, leur dire, bon, il ne faut plus pécher, il ne faut plus ci, il ne faut plus faire, souvent, leur donne l'impression qu'on est en train de solliciter leur volonté, leurs efforts et leurs forces pour faire les choses. On se dit, bon, je vais faire l'effort de ne plus pécher, je vais faire l'effort de... Mais voilà que le problème, c'est que ce n'est pas de votre effort qu'il s'agit. Puisque Dieu nous dit que nul ne peut être justifié ou sauvé par ses œuvres. C'est-à-dire que tout ce que tu fais là ne peut jamais te sauver. Nul ne peut être sauvé. Nul ne peut être justifié. Nul ne peut se révolutionner sa vie par ses œuvres. De sorte que personne ne puisse se glorifier. Nous ne pouvons être sauvés que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous recevons par la foi en lui. La grâce, c'est-à-dire que c'est un cadeau gratuit, immérité. Tu es bandit, on doit t'enfermer en prison, on te libère, on te donne des cadeaux. C'est ça la grâce. Donc, nous sommes sauvés par la grâce que Jésus a payée, mais nous pouvons prendre possession de notre grâce par la foi. C'est-à-dire en y croyant, en la revendiquant, en la prenant pour nous. Donc, en réalité, personne ne peut être sauvé. Personne ne peut faire, ne peut relever le défi de vivre comme un enfant de Dieu, parce que c'est de ça qu'il s'agit, en restant un homme qui fait des efforts pour vivre comme un enfant de Dieu. Écoutez, je répète, ce que je dis là est très important. Personne ne peut en demeurant un homme faire assez d'efforts ou de bons efforts pour arriver à se comporter comme un enfant de Dieu. Ou tu nais enfant de Dieu, ou tu n'es pas enfant de Dieu. Mais un homme ne peut pas réussir à se comporter comme un enfant de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que ce qui est né d'un homme est homme. Ce qui est né d'une poule est poule ou poussin. Ce qui est né d'un mouton est mouton. Ce qui est né d'un cheval est cheval. Ce qui est né d'un homme est homme. Tu ne peux pas naître d'un homme et être esprit. Si tu nais d'un homme, tu es un homme. Or, pour se comporter comme un chrétien, pour être fils du Saint-Esprit, il faut naître du Saint-Esprit. L'erreur que nous avons tous commis, moi y compris pendant longtemps, et que beaucoup d'hommes de Dieu commettent encore, c'est de croire qu'on peut prendre un homme et en lui parlant, le convaincre de faire des efforts pour devenir un enfant de Dieu. Qu'un homme peut choisir de se comporter comme un enfant de Dieu. C'est ça qui est faux. Ou il naît enfant de Dieu, ou il demeure homme. Mais il ne peut pas passer d'homme à enfant de Dieu par sa volonté. Il ne peut le faire que si le Saint-Esprit lui donne naissance. Je peux être un homme et devenir un oiseau, à moins qu'un oiseau me donne naissance. Et je vous donne souvent cet exemple. Si je mets un poussin et un aiglon, c'est-à-dire le petit d'un aigle, dans le même poulailler, l'aigle est un animal puissant, très grand, qui vole très très haut au-dessus des montagnes. Le poussin ne peut même pas sauter à un mètre du sol. Quand ils sont petits, ils se ressemblent. Ils peuvent grandir ensemble dans le même poulailler. Et quelqu'un d'ignorant va croire que ces deux oiseaux, c'est pareil. Mais quand ça va chauffer, qu'on va les mettre au sommet de la montagne, on va dire, on les lance pour voler, le poussin va s'écraser comme un caillou, il va mourir. Mais l'aigle va décoller. En apparence, ils se ressemblent quand ils sont petits. Mais en grandissant, vous allez commencer à voir la différence entre le poussin et l'aiglon. Et quand il faudra bouger et agir, vous verrez clairement que l'aiglon, ce n'est pas le poussin, même s'ils ont grandi ensemble. L'Église est faite d'hommes et de fils du Saint-Esprit. Quand ces bébés, les deux se ressemblent, mais avec le temps, vous voyez se démarquer clairement des fils du Saint-Esprit avec la manifestation des fruits du Saint-Esprit en eux et des fils d'hommes avec la manifestation de la nature de l'homme en eux. Vous verrez les fils de l'homme avec le péché, le mensonge, l'adultère, la fornication, la jalousie, la peur, le stress, la pauvreté, la maladie. Ces fruits-là vous montreront que, on dit, on connaît un animal à sa marche, Regardez, chaque animal est reconnu pour sa manière de marcher. Il marche comme une tortue, il est rapide comme un lièvre, il galope comme un cheval, il roule comme un serpent. Chaque animal, il vole comme un oiseau. Un animal est caractérisé par sa manière de marcher. En voyant comment un homme marche, tu peux savoir si c'est un fils d'homme ou un fils d'esprit. Celui qui est un fils d'esprit va manifester l'amour, va manifester la joie, la tempérance, la maîtrise de soi, la bénignité, la bonté, le pardon, la foi, la piété. Tu ne verras jamais ça chez le fils d'un homme. Il peut faire des efforts pendant 2 jours, pendant 3 jours, mais chasser le naturel reviendra au galop. Sa nature d'homme va se remanifester tôt ou tard. Il n'y a pas d'effort qui te permette de passer de poussé à aiglon. Tu es né aiglon, tu n'es pas des aiglons. Est-ce qu'il y a une technique pour qu'un poussé devienne un aigle? Il peut faire beaucoup d'efforts, peut-être que là où toutes les autres poules sautent 20 cm, lui va sauter 40 cm. S'il saute 1 mètre, c'est que c'est une poule très bien entraînée. Mais il ne va jamais décoller comme un aigle. Vous me suivez? C'est Joyce Meyer qui a bien expliqué ça dans une métaphore que j'aime bien. Elle dit, dans le monde, nous avons différentes qualités en termes de saut en longueur. Le champion du monde va peut-être sauter au mieux 11 mètres ou 12 mètres, si c'est trop. Le champion du monde en saut en longueur, par exemple. Moi, ce n'est pas sûr que je sois capable de sauter 2 mètres en longueur. Ça veut dire que moi, je suis complètement un médiocre à côté du champion du monde en saut en longueur. Mais si nous sommes, par exemple, au sommet, comme dans certains pays de l'Himalaya ou bien dans les cascades du Tanoué qu'on sort, il y a, ou bien par exemple à Dassa ou à Savé, il y a un mont là-bas et puis un autre là-bas à 10 km. On dit, bon, sautons d'ici à là-bas pour être sauvés. Est-ce qu'il y a une différence entre le champion du saut en longueur et moi? Quand il faut passer d'un pic d'une montagne à l'autre, il y a 2 km entre les deux. Que tu sois champion du saut en longueur ou que tu sois un gars qui ne peut pas sauter 2 mètres en longueur là, est-ce qu'il y a une différence entre vous? Quand il s'agit de sauter d'une montagne à l'autre, vous allez tous les deux mourir. Même s'il est beaucoup plus fort que toi, là, vous allez tous les deux mourir. Et vos forces deviennent ridicules quand le saut est un saut en kilomètres. Ou bien, c'est pareil avec la foi. Il peut y avoir des gens plus forts que d'autres pour faire des efforts, pour prier, pour crier, pour s'agiter, pour se râper les genoux sous prétexte qu'ils sont en train de faire preuve de ferveur. Mais quand on parle de salut, c'est comme le sauteur que je suis et le champion du monde. Les deux vont dans le décor si on devait compter sur leur capacité. Si on ne vient pas te donner un parachute ou un hélicoptère ou quelque chose, tu ne peux jamais franchir cet abîme. Et c'est là où le Saint-Esprit intervient. La seule manière de devenir un enfant de Dieu, c'est-à-dire un enfant du Saint-Esprit, parce que Dieu est esprit, c'est de naître de l'Esprit. Il faut d'abord naître idéalement d'eau, par le baptême, puisque Jésus dit à Nicodème que si quelqu'un ne naît d'eau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Mais il faut naître aussi d'Esprit. C'est en naissant de l'Esprit qu'on est enfant de l'Esprit. Si je nais de l'Esprit, que je suis enfant de l'Esprit, j'ai naturellement, sans aucun effort, la nature de l'Esprit. Écoutez, tu ne peux pas apprendre un poisson. Est-ce que je vais devoir donner des coups à un poisson pour qu'il n'étouffe pas dans l'eau? On donne des coups au poisson pour qu'il ne boive pas l'eau quand ils sont dans l'eau. Mais si tu veux mettre un homme dans l'eau, si tu fais trop, il va tenir sous l'eau 2 minutes, 3 minutes. Bon, si c'est un champion, c'est pas même parce que quelqu'un peut tenir une heure de temps. Mais il n'y a rien à faire comme technique pour que l'homme reste sous l'eau, sans équipement, avec son nez, une heure de temps. Mais est-ce que quelqu'un forme un poisson pour qu'il reste sous l'eau? L'homme peut faire avion, fusée, tout ce qu'il veut pour voler. Mais dès qu'il éteint son moteur, il va retomber sur le sol. Mais un oiseau, il peut passer des heures en l'air, en planant. Quand ta nature est quelque chose, tu manifestes la chose sans effort. C'est ne pas vouloir manifester la chose qui devient difficile pour toi. Si tu es fils de l'homme, le péché c'est ta nature. Tu peux faire tous les efforts du monde. Dès que tu vas être un peu fatigué, faire des efforts, tu retomberas. Mais si tu es né de l'esprit, que tu deviens donc un enfant de l'esprit, tu as la nature de l'esprit. Le péché devient un problème pour toi. C'est-à-dire que quand le péché arrive, tu as du mal à le faire. Et tu dois faire beaucoup d'efforts de t'entêter contre le Saint-Esprit, de te rebeller contre lui pour le faire. Le péché n'est plus naturel pour toi, il devient difficile pour toi. Dès que tu déconnes, toi-même tu es tellement éprouvé de l'intérieur que tu souffres même sans qu'on te touche. C'est-à-dire que là où il était difficile de t'arrêter sur le péché, c'est d'avancer sur le péché qui devient difficile. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? La différence n'est pas dans tes efforts, c'est que tu n'es plus la même chose. Parce que l'une des premières manifestations du Saint-Esprit, quand il est en nous, c'est qu'il nous donne la conviction de péché. L'homme naturel le sait même parce que le péché est mauvais. Quand il a 10 copines dans une même journée, il se vante auprès de ses amis de regarder que lui, il a pu sortir avec 10 filles cette semaine. Donc, il est sur le chemin de la mort, mais comme il est mort lui-même vivant, comme on dit, c'est un mort vivant, comme dit Jésus, il n'est même pas gêné, il se vante même de ça. Mais quand le Saint-Esprit est en toi, tu ne t'es même pas approché d'une fille qui te sonne la lettre que ça là, tu déconnes. Tu peux continuer, hein, mais en le faisant toi-même, tu n'as plus la paix. Tu sens que tu n'es plus en paix, tu n'es plus à l'aise. C'est déjà la souffrance pour toi de t'entêter. Si tu arrives à faire ça, je suis défié, c'est que là, tu as décidé délibérément d'aller en enfer. Et Dieu lui-même, toi-même, tu sais en le faisant que là, je suis en train de me perdre. Mais tu ne peux pas dire que tu as fait ça sans savoir que c'était mauvais. Parce que le Saint-Esprit en toi sonne l'alerte, t'interpelle, te secoue, te réveille chaque fois que tu veux t'approcher du péché. Même si tu ne sais pas que c'est un péché, quand tu veux le faire, le Saint-Esprit va attirer ton attention sur le fait que c'est un péché. Tu vas perdre la paix. Parce que la paix dans notre cœur est un arbitre du Saint-Esprit. L'une des meilleures manières de savoir si ce que nous sommes en train de vouloir faire est conforme à la volonté de Dieu, c'est de regarder comment vous vous sentez. Quand quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit veut agir, si c'est la volonté de Dieu, il a une grande paix. Dieu peut par exemple demander de tuer quelqu'un. Si c'est Dieu qui demande de tuer quelqu'un, même si la foule est là, tu vas prendre la personne, tu vas l'égorger, ta conscience ne va même pas te déranger. Tu vas avoir une assurance que c'est ça qui a fait, rien ne va se passer. Sans ce genre de paix-là, un gars comme Élie ne peut pas tuer 400 prophètes, tu vois, comme il pouvait de balles. Il ne peut pas. Sans cette assurance, quand Moïse dit de prendre des épées de tuer tous ceux qui ont fait l'idolâtrie, ils ne peuvent pas. C'est leur frère. Mais quand le Saint-Esprit est avec toi, il peut te demander de tuer 1 million de personnes. Tu as une sérénité. Tu sens qu'il faut le faire. Rien ne t'effraie. Tu peux le finir peut-être et avoir un peu peur comme Élie. Mais pendant que le Saint-Esprit est avec toi, tu as cette force-là. Rien ne te tremble. Ne t'effraie. Mais si tu veux faire quelque chose que tu as décidé, et au moment de le faire, ta conscience commence à te déranger, tu n'as plus trop envie, tu n'es plus convaincu, tu te sens mal, tu te demandes si c'est bon, il faut te calmer, ne pas le faire, et prier avant de bouger. La Bible nous dit que la paix dans notre cœur est un arbitrage du Saint-Esprit. Parce qu'il est le prince de paix. Et il dit, je ne te donne pas la paix comme le donne le monde. La paix de Dieu doit être avec toi dans toutes les circonstances. Même quand on entend tuer les gars comme Pierre, les gens comme Paul, les gens comme Étienne, vous n'avez jamais lu que quelque part l'un d'entre eux pleurait, suppliait, pardon, sauvez-moi, aie pitié de moi. Quand le Saint-Esprit est là, même si on veut t'égorger pour Dieu, tu vas être souriant. Tu es comme anesthésié, tu es comme drogué. Tu es drogué par sa puissance. Qui te donne de tenir ferme, qui te donne, écoutez, les gars comme Étienne, on le lapidait. Il dit, Père, pardonne-leur. Toi, tu peux dire ça? Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas dire ça. Mais avec le Saint-Esprit, tu ne sauras pas quand tu le diras. Moi, je me suis surpris à avoir des réactions comme ça. Dans certaines choses qu'on me faisait, les gens me trouvent bizarre. Mais je comprends que si tu as le Saint-Esprit en toi, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et ta nature n'est plus ta nature. C'est la nature de Dieu qui vit en toi. Ce que je dis là est très important parce que moi, je travaille à un réveil. C'est-à-dire, vous savez, ça ne m'intéresse pas hein, d'avoir une église, les gens sont nombreux, on se voit tous les dimanches. Entre vous et moi, je n'en ai rien à cirer. Quand je vous vois comme ça, ça m'apporte quelque chose. Oui. La seule chose que ça peut m'apporter, c'est que Dieu veut réveiller ce pays. Je veux voir des géants. Je veux voir des aigles voler. Je veux voir des gens bénis. Je veux voir des gens qui réveillent des morts. Des gens qui guérissent des malades. Des gens qui prient et les problèmes des gens sont réglés. Je veux voir une armée devant moi. Mais avoir des gens qui s'assiedent devant moi comme les professeurs d'université, ça ne m'intéresse pas. On m'a toujours invité à enseigner à l'université. J'ai toujours refusé parce que ça m'ennuie. Quand je vais faire trop ces séminaires, deux jours, trois jours, je les laisse. Avoir les mêmes gars devant moi, ça m'ennuie. Voilà, Dieu a dit que maintenant, c'est ça que je vais faire. Donc, vous allez avoir des problèmes parce que je vais vous secouer. Vous devez grandir. Des gens assis à ne pas bouger. C'est triste. Mais si nous avons une vraie effusion du Saint-Esprit, comme je rends grâce au Saint-Esprit depuis la Pentecôte, on commence à en voir les prémices. Vous allez voir que ça va être magique. Vous allez voir que ça va être magique. Mais on ne peut en arriver là que quand, en plus d'être un fils de l'homme, on est régénéré. On est de nouveau. En fond, l'expression c'est les vojo. Les vojo. Naître de nouveau. Les ignorants ont toujours utilisé ça comme le mot, oui, l'homme est né de nouveau. Les gens des sectes, notamment les catholiques ignorants comme d'habitude, qui ne connaissent rien à leur propre religion, ont diabolisé le fait de naître de nouveau. Mais combien de fois ne dit-on pas en fond les vojo? Ça résume bien le défi. Naître de nouveau. Si tu as un poussé que tu veux voler, ou tu nais comme un aigle, ou tu laisses tomber. Il n'y a pas d'effort pour que le poussin décolle. Donc, si tu n'as pas envie de devenir un aiglon, va dormir, mais arrête de t'agiter. Tu vas te faire mal pour rien. Tu ne vas pas qu'à force de forcer, tu vas finir par te blesser en tant que poussin qui veut voler. Les gens essaient, tu vas voir, je vois par exemple des pasteurs. Ils ont 40 ans, ils sont déjà complètement vieux, ils ont les cheveux blancs. Ils sont écrasés par le fardeau du ministère. Parce qu'ils essaient de porter comme Hercule sur leurs bras chétifs et leurs pauvres épaules le poids du ministère. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu avec sa force. Vous ne voyez pas que les hommes de Dieu vieillissent avant l'âge? Parce qu'ils font du problème de chacun un problème personnel. Ils vont devenir fous. C'est Jésus qui est mort pour nous, ce n'est pas moi. Moi, je suis là pour vous connecter à Jésus. En fait, c'est de l'orgueil. À force de s'appeler man of God et puis tout ça, ils finissent par croire, même sous le mensonge de leurs fidèles, qu'ils ont un pouvoir. Et ils essaient d'exercer leur pouvoir. Comme ils n'ont aucun pouvoir, le pouvoir des problèmes déjà les écrase. Moi, je n'ai pas un problème de personne sur moi. Hein. C'est notre père. Si je fais trop, je tiens la main de quelqu'un et dis, père, voilà ton enfant. Voilà comment tu parles à ton enfant, toi, voilà comment tu parles à ton père. Point final. Je vous annonce la bonne nouvelle que Dieu est là pour vous. Je vous apprends à lui parler et vous lui parlez. Parce qu'à part de lui-même, personne ne peut gérer tous les problèmes des hommes. Donc moi, je ne veux pas jouer à ça. Je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui, mais je sais que Dieu va m'envoyer des millions de fois dans le que vous êtes. Alors franchement, s'il faut que chacun d'entre vous me donne des mots de tête, vous imaginez que je vais mourir avant l'âge? Ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. Mais le Saint-Esprit, lui, il est venu pour faire ça. Les gens ont sorti le Saint-Esprit que Dieu envoyait pour faire ça de l'église et veulent jouer les supermen qui font le boulot du Saint-Esprit à sa place. Non. Nous allons lire Jean 14. Pour que vous voyez un peu, on commence à voir un peu mieux. Qu'est-ce que le Seigneur nous promet sur le Saint-Esprit?
Je lis la parole de Dieu. Jean 14, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie.
Point. On va aller progressivement. Il faut commencer à comprendre en tant que disciple que Jésus n'est pas quelque chose. Quand on dit aux gens qu'il suffit de venir à Jésus, tous leurs problèmes sont réglés, ils se disent, mais c'est exagéré, c'est quoi cette affaire qui règle tous les problèmes? Mais c'est parce que Jésus est tout ce qu'il vous faut. Il est Dieu, donc c'est lui qui vous a créé. Parce qu'il était avec Dieu à la création. Il était parole de Dieu. Et Dieu a tout créé par sa parole. Quand vous priez Dieu, vous utilisez la parole. Quand Dieu veut vous répondre, utilise la parole. Quand Dieu veut donner des ordres à ses anges, il envoie la parole. Jésus est l'alpha et l'oméga de Dieu. Tout a été fait par lui. Tout a été fait pour lui. Tout a été fait avec lui. Si tu laisses Jésus tomber, tu n'as plus rien. Il est le chemin. Beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'ils ne sont, ils sont perdus. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas où prendre pour s'en sortir. Ils se baladent. On fait ceci aujourd'hui, on fait cela demain. On sort avec Pierre aujourd'hui, on sort avec Paul demain, on fait avec Jacques et Paul demain. Ça, c'est le comportement de quelqu'un qui est perdu. Quand on trouve ce qu'on cherche, on ne se balade pas. Quand tu passes 3 ans pour faire quelque chose, c'est parce que tu n'as pas trouvé ce que tu voulais, parce que tu es perdu. Quand tu trouves ce que tu veux, en 2 minutes, tu le prends et tu passes à autre chose. Il est le chemin. Il faut prendre le temps de méditer ce que ça veut dire. Quoi que vous veuillez de bon dans la vie, quoi que vous souhaitiez de bon dans la vie, il est le chemin. Il n'est pas un chemin. Il n'est pas un des chemins. Il est le. Si vous comprenez français, c'est le chemin. Si tu laisses le chemin et tu rentres dans les brousses, c'est ton problème. Toute ta vie, tu vas te balader dans la brousse. Le chemin. Pas un des chemins. Le chemin. La vérité. Un monde de mensonges. L'homme est perdu parce qu'il ne connaît pas la vérité. Et parce que tous ceux qui prétendent la connaître ne la connaissent pas. Je me moque toujours des universités, je me moquerai toujours d'elles. Parce qu'elles sont les premières à faire le malin. Pour dire enfant université, on dit des gens qui ont fini d'apprendre et puis il n'y a plus rien à apprendre. C'est ça, non, la traduction littérale. Quelle foutaise, ils ne connaissent rien, oui, du tout. Et les gens qui sont supposés avoir tout appris, il n'y a plus rien à apprendre, quand ils veulent faire leur mémoire, ils ont le culot dans le même document d'affirmer que A est vrai, que non A est vrai, et qu'une troisième vérité qui n'est ni A ni non A est vraie. C'est-à-dire qu'ils prétendent que A est égal à moins A. Et ils n'ont pas le courage de déduire, comme en mathématiques, que ça implique forcément que A est égal à zéro. La thèse, c'est A. L'antithèse, c'est non A. Ils affirment que les deux sont vrais. Ils démontrent les deux avec des noms de docteurs, de professeurs, d'agrégés, de maîtres, de je ne sais trop quoi. Et au bout de leur travail, ils ne peuvent pas te dire ce qui est vrai. Ils n'ont fait que se masturber intellectuellement. Mais on leur donne mention honorable. Ils sortent de l'université avec des doctorats sans jamais avoir pu dire en 2 choses ce qui est vrai. Et c'est eux qui éclairent les nations. Vous êtes surpris que le monde soit dans les ténèbres. Quand des gars qui ne peuvent pas discerner entre le vrai et le faux bâtissent le monde. Et nous sommes tous dans ça. Chacun de nous est perdu. Quand tu ne sais pas ce qui est vrai, tu deviens fou. Et le monde est fou aujourd'hui. Quand on ne sait plus ce qui est vrai, les hommes ne savent plus si ce sont des hommes, les femmes ne savent plus si ce sont des femmes. Il y a des homosexuels, il y a des mariages gays, il y a des transsexuels, il y a des gens au sexe neutre. Il naît homme, il devient femme, il demande qu'on change chaque identité pour lui donner le sexe neutre, comme aux États-Unis aujourd'hui. Et l'Assemblée nationale dans certains pays vote des lois pour dire que bon, les gens ont le droit de se prostituer avec des animaux, à condition que l'animal ne souffre pas trop. Vous ne vivez pas? Vous écarquillez les yeux. Mais quand rien n'est vrai, quand tout est vrai, que tout est faux, pourquoi ça c'est bizarre? Selon quoi ça vous paraît bizarre? Dans un monde où on affirme que A est vrai, que non A est vrai, et que vous applaudissez en disant mention honorable. C'est ça l'importance de la vérité. Moi je sais ce qu'est la vérité. C'est Jésus. Quand tu lis la Bible, je te mets au défi de voir une thèse et une antithèse. Il n'y a jamais de choses qui se contredisent. Un livre de plusieurs milliers de pages, qui a vécu des millénaires, tous les chercheurs, tous les archéologues, tous les historiens, tous les scientifiques l'ont défié. Jamais ils n'ont prouvé de contradiction dedans. On va à l'université, on sort avec des diplômes de papier qu'on devrait brûler, avec des mentions honorables. qu'on ne peut même pas écrire 30 pages sans contradiction. Tout le document est bâti sur la contradiction. Et on applaudit des gens de dire qu'on ne peut pas dire la vérité, donc les deux sont vrais. Je mens. Vous avez des yeux pour voir, vous ne voyez pas. Enfant te dira qu'un clin runkun. Ça, la vérité. Et le monde déteste Jésus parce que lui, il affirme la vérité. Et personne n'a jamais pu démontrer que la vérité n'était pas vraie. Je vous mets au défi, vous tous qui êtes ici, de me donner une ligne de la Bible que le monde a contredite. Une ligne. Pourquoi quand il y a un gros volume comme ça de vérité, des gens peuvent perdre du temps, des milliards à l'université à affirmer qu'on ne peut pas faire la différence entre le faux et le vrai. Et vous payez beaucoup d'argent pour avoir ces diplômes. Moi, tous mes diplômes sont dans la cantine chez ma maman. Parce qu'elle m'a même les diplômes, moi je leur ai déjà donné ça là-bas. Je ne sais pas à quoi ça sert. Nous sommes bêtes et nous sommes pauvres parce que nous avons été formés pour croire que la vérité n'existe pas. C'est le plus grand des mensonges de l'école. Tout ce qui est vrai devient faux à l'école. Quand tu es au primaire, on te dit que 6 moins 9, c'est impossible. En sixième, on te dit que c'est possible, ça devient moins 3. C'est-à-dire que l'école t'a menti. Est-ce que je mens? Bon, mais c'est moi qui mens. C'est moi qui mens. Et vous êtes tous dans ce système. On applaudit. École primaire, école ci. Vous savez, moi j'ai eu la chance de défendre des gens qui n'étaient pas tout à fait fiables. Qui pouvaient dire une chose et leur contraire. Mais je suis quand même arrivé à les défendre. Ils n'étaient pas fiables, ils disaient toujours une chose et leur contraire. Mais j'ai quand même pu les défendre. Alors aujourd'hui que je peux défendre le vrai, mais c'est une partie de plaisir pour moi. Quand tu peux défendre le faux, et que tu découvres la vérité. Mais personne ne peut te battre dans la défense de la vérité, les gars. Parce que la vérité est vraie. Elle vit, elle s'impose. Les chrétiens doivent savoir la chance qu'ils ont d'être avec la vérité. Pas avec une vérité. Il n'y a pas une question de l'humanité qui n'est pas traitée et répondue dans la Bible. C'est le seul livre au monde qui a le culot de dire d'où nous venons, où nous allons. Si vous en trouvez un autre, dites-moi. C'est le seul livre au monde qui a le culot de dire de manière cohérente et personne n'a pu défier d'où on vient, où on va. Et qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est le seul livre au monde de ce volume-là qui a fait 700 et quelques prophéties dont 70% s'est déjà accompli. Et à moins d'être bête, ce livre-là a été écrit sur au moins 3 ou 4 000 ans. Par 40 auteurs qui ont vécu à des époques complètement différentes. Il y a des bergers, il y a des rois, il y a des juristes, il y a des philosophes, il y a des littéraires, il y a des poètes, il y a des militaires, il y a des artisans, il y a des pêcheurs, il y a des docteurs. Ils ont écrit sans se concerter en vivant parfois des millénaires d'écart. Ils ne se sont pas contredits d'un mot. Écoutez, à moins d'être idiot, là, ouvrez les yeux. Comment des gars comme Esaïe, sans aucun niveau, pouvaient prophétiser avec ce niveau de précision ce qui s'est passé des millénaires après avec Jésus? Quand vous lisez la Bible aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il faut le mettre à jour, faire édition, 2014. Vous n'avez pas honte qu'un livre vieux comme la Bible, vous le lisez aujourd'hui d'actualité. Alors que quand quelqu'un écrit en 2007, en 2010, il faut faire une nouvelle édition pour mettre à jour. Un livre écrit par plein de gens qui ne se connaissent pas et qui démontrent la même chose sans faille, sans incohérence. À la virgule près.
Franchement, si quelqu'un est trop intelligent pour comprendre ça, il ferait mieux de jeter son cerveau. La vérité est belle. Et il est dommage, comme le dit 1 Jean, que le monde ait reçu la lumière et décide de ne pas la voir. Pourquoi les docteurs disent qu'il n'y a pas de réponse aux questions quand tout est écrit? La vérité. Et quand vous avez la vérité, vous avez la vie. La vie, ce n'est pas quand votre corps n'est pas mort. Hein. La vie, c'est quand vous vivez la vie que Dieu vous a donnée. Et nous sommes tous en quelque chose morts ici. Ce n'est pas pour rien que quand, je ne sais pas si c'était Pierre ou qui demandait à Jésus, allez d'abord enterrer son père avant de le suivre. Jésus lui a dit, c'est Pierre, non? C'était un des disciples, je ne sais plus lequel. Jésus a dit, laisse les morts aller enterrer leurs morts. Jésus ne parlait jamais pour faire des blagues. Hein. S'il utilisait un mot, ça veut dire ça. Pourquoi Jésus, c'est-à-dire que si Jésus venait au Bénin, il va dire, laisse le cimetière aller au cimetière, parce que là, il va voir tout le monde que des morts. Pourquoi Jésus appelle morts les gens qui devaient aller enterrer leurs morts? Il dit, laisse les morts aller enterrer leurs morts. Toi, tu es un vivant, tu n'as plus rien à faire avec les morts. Mais tous ici, là, nous sommes morts. Hein. En quelque chose. Quand ceux qui ont reçu le Seigneur, quand ceux qui sont nés de l'Esprit, ils sont en train d'être régénérés. Nous sommes en train d'être régénérés. Mais nous sommes tous morts en quelque chose. La mort, c'est le contraire de la vie. Quand Dieu t'a créé, t'a donné les pleins pouvoirs sur les ressources du monde. Règne sur les animaux, règne sur les plantes, règne sur les ressources de la terre. La terre t'appartient, domine. Je suis maître de l'or de l'argent, je te donne la délégation de l'or de l'argent. Quand tu ne peux pas parfois trouver 1 000 francs sur toi, parce que tes finances sont mortes. Toi-même tu vis, mais tes finances sont mortes. Il y a beaucoup de gens dont la joie est morte il y a longtemps. Ils ont déjà fait messe de requiem, premier anniversaire, deuxième anniversaire, il reste le 50e anniversaire. L'enterrement de leur joie. Ah, je m'en. Il y a plein de gens qui sont mariés, tu les vois se mouner ensemble, mais te demande, ça fait combien d'années qu'ils ont enterré leur mariage? Vous ne voyez pas que chacun de nous traîne la mort? C'est comme si la mort vient nous ronger, comme la souris. Il prend un peu, bon, donne-moi ta santé aujourd'hui, donne-moi ta joie demain, donne-moi la paix après demain. Il te prend petit à petit. Le jour il a fini de te dépouiller, et bon, maintenant vous pouvez l'amener à la tombe. J'ai pris tout ce que j'avais à prendre. Vous ne voyez pas combien les gens souffrent, 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 jusqu'au jour où on dit il est mort. Et tellement que bon, c'est la délivrance. Ça fait longtemps que la mort travaille en lui. Bon, il n'a qu'à être enterré, c'est fini. Jésus, c'est la vie. La vie ici, la vie pour toujours. Si vous ne comprenez pas ça, tout le reste compte pour rien. Vos prières pour demander un emploi, un bonbon, un biscuit, ça, ce n'est pas l'essentiel. Il faut comprendre que recevoir Jésus, c'est recevoir le chemin, la vérité et la vie. Si vous trouvez ces trois choses quelque part d'autre, appelez-moi, moi je vais aller voir, ne serait-ce pas curiosité. Nous continuons. Et vous êtes timide. Je ne comprends pas quoi. Comment on peut avoir ça? Et se cacher. Comment on peut avoir ce que je dis là et se cacher? Jésus dit, mais on n'allume pas une lampe pour le mettre sur un seau. Et il fait nuit, tu allumes ta torche et tu mets ça sur le seau et tu caches. Voilà ce que sont les chrétiens. Pourquoi on allume la lumière dans la nuit si c'est pour la cacher? Continue, Fabrice.
On ne vient au Père qu'en passant par moi.
On ne vient qu'au Père qu'en passant par moi. Il n'a pas dit Marie. Hein. Il n'a pas dit on vient au Père en passant par moi aussi. Hein. Quand, que, en. Il n'y a pas un autre chemin. Et pourquoi il n'y a pas un autre chemin? Je l'ai expliqué si longuement. Je sais pas, on n'a pas beaucoup de temps, mais je suis obligé de l'expliquer. Parce que le Père, c'est lui. L'apôtre, vous allez voir par la suite. On continue.
Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père.
Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. On continue.
Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi, au moins à cause de ses œuvres.
Alors, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Les gens voient Jésus, demandent, ils veulent voir Dieu. Il dit, mais je suis là. Si vous m'avez vu, vous l'avez vu. Parce que je suis en lui, il est en moi. C'est lui qui a agi en moi. Ailleurs, il dit, mais il n'y a que moi qui connaisse le Père. Vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que si nous sommes chrétiens sans savoir ce que ça veut dire, si nous sommes chrétiens comme si, bon, moi-même je vais dans une église quelque part, on dit, bon, qu'est-ce que vous apprenez là-bas? Oui, les gens ont dit que vous parlez de manière médiocre, pour moi que vous-même vous n'êtes convaincu de rien. Et quand les gens voient que vous n'êtes convaincu de rien, ils vous attaquent, parce qu'ils voient que vous n'êtes pas sûr de vous. Si vous savez vous-même de quoi vous retournez, ce qui est en vous, ce que vous adorez, ce que vous servez, quand vous en parlerez, les hommes seront séduits, courant derrière la chose. Puis il te dit, d'où tu viens? Bon, mi filé, mais le don. Le gars se dit, ce que lui appelle filé là, il ne doit rien avoir de bon là-bas. Aie le courage de défendre la vérité. Jésus est Dieu. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois ici, je vous le réexplique. C'est comme si quelqu'un me demandait, nous voulons voir le mari de Hermione. D'abord, je dirais, personne ne peut voir le mari d'Hermione parce qu'il faut être elle, il faut être dans ma chambre à coucher, il faut être dans ma douche. Même si ça plaît à quelqu'un, la personne n'a aucune chance d'être là-bas. Aucun de vous ne peut jamais connaître le mari d'Hermione à part Hermione. Je suis le seul à connaître le mari d'Hermione, à part Hermione elle-même. Même mes enfants ne connaissent pas le mari d'Hermione. Mon père ne connaît pas le mari d'Hermione. Ma mère ne connaît pas le mari d'Hermione. À part Hermione et moi-même qui suis son mari, personne ne peut connaître le mari d'Hermione. Mais si tu m'as vu, tu as déjà vu le mari d'Hermione? Si je me mets par exemple à te décrire les sous-vêtements d'Hermione, ce n'est pas une preuve suffisante pour toi que je suis le mari d'Hermione? Parce que qui peut connaître les sous-vêtements d'Hermione si ce n'est le mari d'Hermione? C'est là où Jésus dit, mais les œuvres que je vous fais là, la démonstration que je vous fais de la puissance du Père, des révélations du Père, de qui est le Père, vous croyez que quelqu'un qui n'est pas le Père, qui ne connaît pas le Père peut vous dire ça? Si vous attendez de connaître le mari d'Hermione, vous allez attendre jusqu'à la mort, vous ne le verrez jamais. Mais Edgar Gilby, le formateur au club, celui qui l'a vu a déjà vu le mari d'Hermione. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois personnes différentes. Ce sont trois facettes, trois personnalités, trois rôles du même Dieu. C'est comme si je suis Edgar le mari d'Hermione, Edgar le directeur de Global, Edgar le formateur ici. C'est trois personnes différentes, mais ce n'est pas trois personnes. Il y a des gens qui ne pourront peut-être jamais voir le directeur de Global parce qu'on leur demandera de prendre rendez-vous et quand ils vont dire l'objet, ils ne me rencontreront jamais. Mais ils me verront ici. Des fois, les gens vont ici pour dire, oui, je veux venir te voir au bureau, donne-moi un rendez-vous. J'ai dit, si tu as mal imposé son problème en même temps. Parce que si tu m'habitues à ta vie de DG global, mais le seul chemin pour toi, là, tel que je te vois, pour aller au DG global, c'est de passer par moi. Si tu me laisses, tu ne peux pas aller voir le père. Tu dis non. Vous, on m'a dit que vous êtes juste formateur. Je veux voir le DG de global. Je dis, ok, laisse-moi, va chercher le DG global. Tu vas le trouver. Quand tu m'as laissé ici, là, tu vas voir le DG de global. Cherche le bien. Laissez Jésus chercher le domestique de Jésus. Votre mari, là, elle a dit, je suis la servante. Si vous ne comprenez pas français, cherchez dans le dictionnaire. Elle a dit domestique. Mais Marie est la nounou de Jésus. Je ne suis pas en train de faire de la moquerie, je suis très sérieux. Marie est la mère porteuse de Jésus. Elle est la nounou de Jésus. Ce qu'on appelle mère porteuse, c'est une femme dont on a loué le ventre pour garder son bébé parce qu'on ne voulait pas garder la grossesse. Cherchez sur internet mère porteuse. Je peux prendre le spermatozoïde de madame, l'ovule de madame, le spermatozoïde de monsieur, je fais un œuf. Je dis, madame, vous voulez 1 million par mois pendant 9 mois, ça fait 9 millions. Oui, parfait. On vous fait une injection, on met leur enfant dans votre ventre. C'est vous qui portez la grossesse. Mais quand l'enfant naîtra, pendant ce temps, elle va à la plage, elle s'amuse parce qu'elle a l'argent. Quand l'enfant va naître, elle n'a pas ta tête, elle n'a pas ta taille, elle n'a pas ton teint. Si elle est blanche, l'enfant sera blanc. L'enfant n'a rien de toi, il n'a pas ton sang, il n'a pas tes gènes, il n'a pas ta nature. C'est son enfant. On a loué ton ventre comme une domestique porteur de bébé pour garder son enfant. On fait ça tous les jours dans le monde, on fait ça au Nigeria. Et pour ça, tu n'as pas besoin de... Tu peux être vierge. Tu peux n'avoir jamais connu d'homme. On va t'injecter par une seringue, l'œuf. C'est le jour de ta naissance que tu vas dévierger. C'est comme ça qu'on peut être enceinte en étant vierge. Si le docteur peut par une injection mettre un œuf dans le ventre d'une personne, quand le Saint-Esprit survient sur Marie, qu'est-ce qu'il a fait selon vous? Il a fait d'elle une mère porteuse. Et vous allez voir que dans la Bible, dans toutes les versions, y compris dans la Bible Tobe, Jésus n'a jamais appelé Marie mère, sauf au pied de la croix. Il dit femme, femme, mon heure n'est pas venue. Femme, qu'y a-t-il en toi et moi? Femme, laisse-moi vous couper des affaires de mon père. Femme, femme, femme. Mais pour vous prouver qu'il connaissait bien le mot mère, parce que ce n'est pas qu'il ne connaît pas le mot mère. Quand il a voulu dire, Jean, voici ta mère, ça c'est humain, bébé là, mère tu veux donc? Voici ta mère. Mère, voici ton fils. Entre là, il peut avoir mère. Mais si quelqu'un est mère de Dieu, Dieu n'est plus l'alpha. Est-ce que Dieu peut avoir une mère et être l'alpha? S'il y a mère de Dieu, la mère de Dieu devient mère. Devient Dieu. Parce que c'est la mère qui a donné naissance à Dieu. Donc Dieu n'est plus le premier. L'expression mère de Dieu ne veut rien dire pour qu'il comprenne français. Comment on peut être mère de Dieu? Dieu a existé avant qu'elle ne naisse. Comment elle peut donner naissance à Dieu? On devrait dire Marie, mère porteuse de Dieu. Ce que je dis est scientifique. Allez sur internet demain. Il ne faut pas juste aller regarder n'importe quoi sur internet. Mettez mère porteuse, lisez. La science a évolué. Et comme le dit la Bible, dans les derniers temps, le Seigneur lèvera le voile. Il y aura des révélations. La science progresse et nous permet aujourd'hui de comprendre beaucoup de choses que Dieu a fait. Donc, Jésus est Dieu. Dis que tu ne veux pas prier Jésus, tu veux prier Marie. C'est comme si tu veux me poser un problème. Et c'est d'ailleurs arrivé. Je dis non, pose-moi le problème. Non, monsieur, je veux rendez-vous avec... le DG global, je dis, de quoi il s'agit? Non, je ne peux pas vous parler. Bon, ok, fais comme tu veux. Ok, c'est pas grave, je vais voir Déborah, elle parle que c'est la secrétaire du DG global. Je dis, va voir Déborah. Hein, va voir Déborah, elle va t'organiser rendez-vous et je m'en vais. Elle peut régler ton problème. Quand tu m'as vu et tu as dit que non, c'est pas moi que tu cherches, c'est pas le gars qui est au club qu'on cherche, que tu cherches. On t'a dit qu'il y a quelqu'un qui est le DG de global, c'est lui que tu cherches. Que tu vas aller voir Déborah, sa secrétaire là. Tu vas le voir. Jésus dit, celui qui m'a laissé, il a laissé le Père. Si tu m'as vu, tu ne crois pas que tu as vu le Père. Tu ne verras jamais le Père. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin pour aller au Père, c'est moi. Quand Jésus se baptisait, le Saint-Esprit a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai mis tout mon amour en lui. J'ai mis tout mon amour en lui. D'abord, Dieu est amour. S'il met tout son amour en quelque chose, c'est qu'il est tout dans la chose. Mais au-delà de ça, il vous fait une révélation. Chacun de nous a différentes facettes, a différents rôles. Et dans chacune de nos facettes, nous n'avons pas le même caractère, nous n'avons pas la même accessibilité. Si par exemple, je suis en train de jouer avec mes filles, Audrey, Chami ou Paul-Emmanuel, que je suis à la piscine ou à la plage, et que quelqu'un vient me voir dans cette ambiance, et que la personne a des enfants, la manière dont lui ou moi va parler, ce n'est pas la même manière que s'il me croise au palais des congrès lors d'une conférence. Quand je suis dans mon rôle papa avec mes enfants, en train de manifester l'amour, celui qui m'aborde en tant que papa d'un enfant, qui va dire, on va dire, ah, c'est mon ami, c'est mon ami. Ça change tout dans la manière dont ma relation avec la personne va s'établir. C'est-à-dire que quand quelqu'un m'aborde dans le rôle où mon amour est manifeste, il a un accès plus facile et plus efficace que s'il m'aborde, par exemple, dans mon rôle de conseiller de Yaïbouni. Et chacun de nous a une dimension dans laquelle il est le plus accessible. Peut-être que c'est si sa maman lui demande, par exemple, certains disent, ah, si tu vois sa maman, c'est dans cette logique-là, d'ailleurs, que les gens prient Marie, si sa maman l'appelle pour lui demander un service, il ne peut pas refuser. Donc, on ne vient pas voir, par exemple, Edgar, le DG de Global, mais c'est comme si on allait voir Edgar, le fils de Marie-Paul. Parce qu'on estime que le fils de Marie-Paul va être certainement plus obéissant que le DG de Global, si c'est Marie-Paul qui parle. Parce que là, c'est Marie-Paul qui a créé Edgar. Mais chez Marie, ce n'est pas elle qui a créé Jésus. C'est ça qui est difficile dans votre affaire. Vous voyez? Donc, chacun de nous a une dimension, a un rôle de sa personne dans laquelle il est plus abordable, plus amour que les autres. Parfois, c'est l'épouse, parfois, c'est la maman, parfois, c'est la fille, parfois, c'est la chrétienne. Il y a toujours une dimension dans laquelle nous sommes, notre affection est plus développée que dans les autres. Pourquoi les hommes politiques, parfois, au lieu d'aller se voir au bureau, ils vont se voir dans leur village le week-end lors des cérémonies pour traiter certaines affaires? Dans ce cadre-là, leur relation n'est pas comme la relation à l'Assemblée. Quand Jésus dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, j'ai mis tout mon amour, c'est comme si je te dis, quand je suis au club en train de faire formation là, à cause de Jésus, tout mon amour est là. Si tu as besoin de quelque chose, ils vont me profiter de moi quand je suis au club. C'est là que toute mon affection est. Si tu me manques au club, là où il y a toute mon affection, que tu viens me chercher à la présidence ou à Global, tu peux me trouver, hein, mais ça va être très très difficile pour toi. Parce que je t'ai déjà indiqué le secret par où tu vas toucher facilement mon amour. Donc Dieu nous dit, vous avez Jéhovah Jireh, Jéhovah ci, Jéhovah ça. Il dit de tous vos Jéhovah là, c'est Jésus, c'est-à-dire le Dieu qui sauve. C'est là où j'ai mis mon amour. Toi tu dis, non, ce chemin là ne me plaît pas. Ton côté où il y a amour là ne me plaît pas. Moi c'est pas ta domestique que je veux te parler. Il dit d'accord, sois en train de venir, on va finir par se voir. Le chemin pour aller à Dieu est Dieu. Parce que certains prient Jésus sans savoir qu'ils prient Dieu. Nous continuons.
En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes. Parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous.
On s'arrête d'abord. Alors, Jésus nous dit que l'enjeu d'être disciple, l'enjeu de l'aimer, c'est de faire ce qu'il a fait et de faire encore plus. C'est d'être son représentant. C'est d'invoquer son nom pour qu'il fasse ce que nous demandons afin que cela le glorifie. C'est-à-dire que quand vous voyez par exemple un panier, vous lui dites, Jésus peut te sauver. Il dit, ah bon? Quel est ton problème? Il te le dit. Vous priez pour lui, Dieu règle son problème. Dieu s'est glorifié dans la vie de cette personne. Cette personne voit que, ah, ce Dieu-là est vraiment un Dieu glorieux. Donc Jésus dit que, si vous voulez lui obéir, vous devez faire comme il vous a demandé de faire. Vous devez aller vers les gens. Mais que lorsque vous irez vers les gens, comme on l'a vu dimanche dernier, et que vous lui demanderez de faire quelque chose pour eux, si vous l'avez demandé en son nom, il le fera afin que par cet exaucement, le Père soit glorifié en lui. C'est-à-dire qu'on voit que le Père est grand à travers le nom de Jésus-Christ. Et il dit, lui s'en va. Il nous a dit par ailleurs dans la Bible qu'il est avantageux pour nous qu'il s'en aille au Père et qu'il nous envoie quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose que les chrétiens n'ont pas compris. C'est que le Saint-Esprit sur la terre est plus fort que Jésus. Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, Dieu le Père c'est le Dieu. Mais, si vous regardez bien pour le salut des hommes, Jésus est venu faire une opération commando ponctuelle. Mais avant Jésus et après Jésus et pour l'éternité, Dieu qui nous gère, Dieu qui s'occupe de nous, c'est le Saint-Esprit. Depuis la création, l'Esprit, donc le Saint-Esprit, se mouvait déjà au-dessus des eaux. Quand Dieu est venu lâcher la parole, donc Jésus, la combinaison de Saint-Esprit et la parole a créé le monde. C'est le même Saint-Esprit que quand il a venu, il a fallu que Jésus revienne, s'incarner en tant que chair humaine, pour pouvoir avoir le titre légal, le passeport de Gbeto. Pourquoi Jésus est né de Marie? C'est comme quand les femmes vont tomber enceintes, vont accoucher aux États-Unis, pour pouvoir avoir un passeport américain pour leur enfant. Pour pouvoir régler les problèmes des hommes à leur place, Jésus devait être un homme. C'est pour ça que la Bible l'appelle fils de l'homme et fils de Dieu. Un fils de Dieu ne peut pas venir combattre pour les hommes. Tu ne peux pas être un béninois et aller dire que tu veux être élu député américain pour défendre les Américains. Donc, pour nous défendre, sans que Satan nous dise, qu'est-ce que tu viens chercher sur la terre? Moi, je suis sur la terre, c'est Adam qui m'a donné son droit. Toi, Dieu, là, tu viens faire quoi dans les affaires des hommes? N'as-tu pas dit que le ciel est pour Dieu, la terre pour les hommes? La terre, c'est pour les bêtes et pour ceux que les bêtes ont invités. Adam m'a invité par son péché. Toi, Dieu, tu viens chercher quoi ici? La preuve, quand Jésus rendait un ministère, un esprit mauvais lui a dit, mais tu es le fils du Dieu très saint. Pourquoi viens-tu nous persécuter avant le temps convenu? Et tu as donné un bail sur la terre à l'homme. L'homme nous a donné notre part. Comme il le dit à Jésus, tous les royaumes de la terre m'ont été donnés. Pourquoi tu viens me persécuter? Si c'est en tant que Dieu, Dieu ne pourrait pas répondre. Il serait en situation de brimade. Si mon fils a 3 ans, il est à l'école. Un de ses amis, peut-être, qui est même au CM2, lui cherche querelle. Est-ce que je peux aller à l'école frapper son enfant, son camarade de CM2? Je peux aller? Quand les hommes disent, mais pourquoi si c'est Dieu est fort, pourquoi quand Satan fait des bêtises, Dieu ne vient pas lui régler des comptes? Pourquoi quand un garçon de CM2 frappe ton fils qui est au CI, le papa ne va pas frapper le garçon de CM2 à l'école? Pourquoi? Ça, c'est affaire entre élèves. Le père n'a pas le droit, même s'il est fort, d'aller frapper quelqu'un à l'école. L'école, c'est laissé aux élèves, peut-être à leur maître. De même, la terre est laissée au béton, au tort du béton, et à ceux qu'ils invitent librement. C'est parce qu'il est fort, Dieu va frapper Satan sur la terre. Dieu fait comme certains présidents qui arrachent les sautilles n'importe comment parce qu'ils sont forts. On appelle ça brimade. Dieu ne fait pas de brimade. Il est juste dans tout ce qu'il fait. Il ne peut pas faire de l'injustice pour rendre justice. Donc, Jésus est venu sur la terre comme une stratégie de Dieu pour casser Satan, sans qu'on ne puisse dire que Dieu est descendu du ciel pour venir brimer Satan sur la terre. Comme la terre pour les hommes, Dieu a dit, ok, c'est homme, on a dit non. Moi-même, je vais envoyer le fils de l'homme régler votre compte. Jésus est donc le fils de l'homme, mais qui, malchance pour Satan, était aussi fils de Dieu. Dans son rôle fils de l'homme, lisez bien la Bible. Quand Jésus fait certains miracles, on dit le fils de l'homme a, le fils de l'homme a, le fils de l'homme a. Parce que le Saint-Esprit existe pour dire que là, c'est en tant qu'homme qu'il agit, ce n'est pas Dieu. Il a été tenté en toutes choses, comme les hommes. Il a partagé la douleur des hommes. Dieu insiste pour dire que ce n'est pas Dieu qui est venu régler les comptes. Hein. Ne dites pas que j'ai été injuste. C'est le Fils de l'homme qui a eu affaire avec vous.
C'est après qu'il est redevenu fils de Dieu.
Si vous voulez avoir de l'autorité, vous devez limiter. Mais pour limiter, vous devez savoir qu'il y a plus fort que lui. Parce que Jésus, en tant que fils de l'homme, était Dieu emprisonné dans la nature humaine. Par exemple, Jésus ne pouvait pas, quand il était sur la terre, être à plusieurs endroits à la fois. Le territoire qu'il a parcouru, quand vous lisez la Bible, ce n'est pas grand. C'est même pas, je ne sais pas si c'est plus grand que Cotonou, ce n'est pas grand. Tout ça là, Judée, la Samarie, là, tout ça, c'est pas l'équivalent, ça n'atteint pas Paris aujourd'hui. Moi, de mon bureau aujourd'hui, je peux faire plus que Jésus. Je peux écrire à 100 000 personnes de mon bureau et parler de Dieu. Jésus ne pouvait pas parler à 100 000 personnes. Il n'a pas parlé toute sa vie sur la terre à 100 000 personnes. Parce qu'il n'avait pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Il était limité. Regardez Jésus. Il a vécu 3 ans avec un gars comme Pierre. Il n'a pas pu transformer Pierre. Pierre, le jour de sa mort, l'a renié 3 fois en une nuit. C'est un échec lamentable pour un formateur. Et c'est ce que je vous disais. Dans les églises, moi y compris, nous fatiguons à dire aux gens, il faut. En croyant qu'ils peuvent. Jésus n'a pas pu transformer Pierre. Il est resté lâche comme un bonhomme jusqu'à la mort de Jésus. Mais quand le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est amusé à venir avec une petite langue de feu sur sa tête, le même Pierre sort. Il évangélise en une journée 3000 personnes. Les gens passent en son nom, ils sont guéris. Et ce type-là demandait à crucifier la tête en bas, en souriant. Jésus n'a pas pu faire ça. Jésus a échoué à transformer Pierre. Pierre l'a renié 3 fois en une nuit. Quand Jésus était en train de prier, Pierre dormait. 3 fois, il avait dit, veille avec moi. 3 fois, Jésus dormait. On vous dit de veille, vous dormez. Ou bien, Jésus a essayé ça avec Pierre, il a dormi aussi. Eh oui. Quand Paul était là, Paul était déjà vivant quand Jésus était là. Il a entendu parler de Jésus, non? Ça l'empêchait de mépriser Jésus? Ça l'empêchait de tuer des chrétiens? Quand le Saint-Esprit l'a rencontré, il a resté Dieu combien de minutes? Regardez bien. L'Église n'a pas démarré à la mort de Jésus. Elle a démarré quand le Saint-Esprit est venu s'occuper des affaires à la Pentecôte. Et c'est ce que Jésus dit dans la suite du passage. Il est avantageux pour vous que j'aille au Père. Parce que sur la terre, je ne suis que fils de l'homme. Je suis limité. Je suis venu vous montrer le Père dans sa dimension totale d'amour. Mais ça là, c'est à la limite une prison pour moi. Je suis venu pour crucifier le péché. Cherchez-moi vos péchés, je vais amener ça à la croix. Je finis ça, je ressuscite pour vous redonner la vie. Je vous ai blanchi, je vous ai lavé. De sorte que vous ne soyez plus coupable. Parce que si vous êtes coupable devant Dieu, Dieu ne peut pas se réconcilier avec vous. S'il ne se réconcilie pas avec vous, son esprit ne peut pas venir en vous. Je ne peux pas être en train de te rechercher parce que tu m'as volé 40 millions et te voir te donner de l'argent. Il faut d'abord que nous réglions nos comptes. Jésus vient, il règle les comptes entre l'homme et Dieu. Il paye les dettes que l'homme avait envers Dieu, il les met à la croix. Les fardeaux que Satan avait mis sur la tête des hommes, il les fout à la croix. La maladie, la mort, les handicaps, la pauvreté, la malédiction, il fout tout ça à la croix. Il dit, chargez-moi de tout ce que vous pouvez. Regardez bien, quand Jésus a été condamné, il y avait un autre coupable. Jésus de Barnabas, il s'appelait aussi Jésus, comme par hasard. Un grand bandit, un grand brigand, qui était lui réellement coupable de tout. Quand on a demandé au peuple qui on allait libérer, ils ont tous dit Jésus de Barnabas. C'est-à-dire que le monde a transposé la culpabilité de Jésus de Barnabas sur Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth est parti à la croix avec ça. Jésus de Barnabas, qui était le coupable, est parti libre. C'est à ce moment-là que tous nos fardeaux, toute notre malédiction, tous nos péchés, sont sortis de notre vie. Jésus les a pris et les a portés à la croix. Quand il est mort à la croix, c'est que ça l'a payé. C'est la fin des fins pour Satan, il n'y a plus rien à faire. On ne paye pas le même crime 2 fois, y compris chez Dieu. Maintenant que nous ne sommes plus sales, le Saint-Esprit a quitté l'homme. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden à cause du péché qui s'était installé en eux. Parce que le péché, c'est la mort. Dieu ne pouvait pas rester en présence de la mort. Ils ont été chassés à cause du péché. Quand Jésus est revenu, et vous avez vu, on dit, quand ils ont été chassés, Dieu a mis des chérubins à la porte du jardin d'Éden pour les empêcher d'y revenir. Et c'est pour ça que même dans l'arche, il y avait tout le temps le voile qui séparait le lieu très très saint du lieu saint. Parce que l'homme n'était plus autorisé à traverser le lieu saint pour rentrer dans l'intimité de Dieu. Et ce voile-là, ce rideau qui était dans tous les temples le représentait. Mais dès que Jésus a payé le prix, au moment où Jésus mourait, le voile s'est déchiré de haut en bas. Pas de bas en haut, de haut en bas. Ce n'est pas du sol qu'on a déchiré le voile en montant. C'est Dieu qui a déchiré le voile en descendant. Chaque mot dans la Bible est important. Le voile s'est déchiré de haut en bas. Donc Dieu qui avait dit, mettez les chérubins qu'ils ne me voient plus, dit ouvrez maintenant. Il a payé maintenant. Vous êtes à nouveau digne de me voir. Et bientôt, je reviendrai m'installer en vous. La Pentecôte, c'est quand le Saint-Esprit promis par Jésus revient pour dire, Jésus a nettoyé les lieux. Vous étiez sales pour Dieu. Il a payé le prix, vous êtes maintenant propre. Il n'y a plus de raison que je ne vienne pas habiter en vous. Et quand le Saint-Esprit revient habiter en vous, vous passez de simple homme à fils de Dieu. Parce qu'en venant en vous, il ne veut pas habiter dans votre nature humaine. Le Saint-Esprit éternel, votre chair va mourir dans tous les cas. La chair, c'est poussière. Quand quelqu'un se lave, la peau ne sert à frotter le corps. Tu peux frotter le corps fatigué, te relaver, te rincer. Chaque fois, ça va faire la poussière. Il y a des enfants qui ne savent pas ça, ils se blessent même en essayant de frotter leur corps pour devenir propre. Il n'y a rien à faire. Si tu frottes ton corps, tu verras la poussière. Ou bien, on est poussière, on sera toujours poussière. Vous croyez que Dieu va habiter dans la poussière? Ton corps est là, Dieu n'en a rien à serrer, c'est juste pour te permettre de te mouvoir sur la terre. Quand Dieu vient habiter en toi, il fait naître quelque chose en toi. Ce quelque chose-là, c'est un esprit nouveau. Il est esprit, il donne naissance à des esprits, comme un homme donne naissance à un homme. À la Pentecôte, quand tu décides de croire en Jésus, quand tu décides de recevoir le Saint-Esprit vient en toi et fait naître un petit esprit de Dieu en toi. Cet esprit de Dieu est la fusion de l'esprit de Dieu et de ton esprit à toi. C'est l'esprit de Dieu en toi, c'est ton esprit en l'esprit de Dieu. C'est ça qui fait que Dieu est en toi et que tu es en Dieu. Et là où avant, c'était ton esprit corrompu par Satan, qui contrôlait ta vie, qui te faisait penser, qui te faisait parler, qui te faisait agir. C'est ce nouvel esprit qui est l'esprit de Dieu en toi qui commence maintenant à piloter ta vie. C'est pour ça que quand nous venons à Jésus, toute chose devient nouvelle. Ton corps n'a pas changé. Apparemment, rien n'a changé. Mais c'est que le moteur qui conduit ta vie a changé. Le calculateur a changé. L'unité centrale a changé. Le cerveau de ta vie a changé. Parce que c'est dans notre esprit que tout naît. C'est dans notre esprit que naît l'envie, que naît la jalousie, que naît la convoitise, que naît le désir. Dieu ne laisse, ne touche pas votre corps. Il laisse le corps. Il change d'où tout part. Quand nous allons prier tout à l'heure pour vous recevoir le Saint-Esprit, on regarde, rien ne se passe en apparence. Votre corps, rien ne s'est passé. Écoute, quand tu respires, l'air rentre dans tes poumons, ressort, tu vois quelque chose, rien ne se passe. Mais si pendant 30 secondes tu ne respires pas, tu sauras que tu n'as pas respiré. Dieu est le souffle de vie. Quand quelqu'un naît, il n'est pas vivant tant qu'il n'a pas inspiré. Et quand quelqu'un meurt, il n'est pas mort tant qu'il n'a pas inspiré la dernière fois. C'est l'entrée et la sortie du souffle de vie dans nos poumons qui fait la vie. Dieu est partout, en vous, partout autour de vous, comme de l'air. Tout peut vous manquer, vous pouvez ne pas manger, vous pouvez ne pas boire pendant plusieurs jours. Mais si vous ne respirez pas pendant 3 minutes, vous êtes mort. Donc quand le Saint-Esprit vient en vous, s'il est le souffle de vie, vous respirez, non? Quand vous respirez, vous savez si l'air est rentré dans vos poumons ou pas. Quand on respire, on cherche quoi pour voir si vraiment l'air est rentré dans nos poumons. Pourquoi vous voulez chercher des signes extérieurs que le Saint-Esprit est rentré dans votre vie? C'est plus quand on cherche à voir comment l'air est rentré dans sa vie, dans son nez. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais on en voit les effets. Si tu es oxygéné, si tu n'es pas étouffé, si tu te portes bien, si tu as la joie, si tu as la paix, c'est que tu es en train de bien respirer. Quand le Saint-Esprit rentre en toi, il te donnera une grande paix. Il te donnera la conviction que tu es un enfant de Dieu. Il va t'aider à repousser le péché. Tu vas sentir que de l'intérieur, tu es en train de devenir une autre personne. Et si tu le crois, l'un des signes les plus puissants et les plus visibles rapidement, c'est que tu vas recevoir le don du parler à langue. On n'a hélas pas beaucoup de temps, mais je dis rapidement, on va revenir certainement là-dessus mercredi prochain. C'est quoi le don du parler à langue? Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux choses, entre autres, avec lesquelles on fait la différence entre les différentes sortes d'animaux. On regarde, tout animal est différent des autres dans sa marche et dans son langage. Un homme marche comme un homme, un gorille ne marche pas comme un homme, un chien ne marche pas comme un loup. Chaque animal est spécialisé dans sa marche. Et on apprécie d'ailleurs souvent les animaux à leur marche. Par exemple, les chasseurs, ils regardent même les pas d'un animal pour déceler quel animal est passé par là. Tellement la marche d'un animal est caractéristique de cet animal. Si tu es un homme, tu vas marcher comme un homme, je l'ai déjà dit. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas marcher comme un enfant de Dieu. Mais la deuxième chose qui permet de caractériser un animal, c'est son langage. À l'école, on apprend que les moutons disent « bé », les bœufs disent « bœ », les loups font « ouh », les oiseaux font « cui cui ». Chaque animal a son langage. Ou bien, les mouchons « tss », les chiens font « oh oh ». Chaque animal a son langage. « Miaou ». Ou bien, parfait. Pourquoi vous voulez passer de la nature d'homme à la nature d'esprit? Et vous voulez que l'esprit parle comme l'homme? Est-ce qu'un loup parle comme un chien? Hein? Vous voyez qu'on fait comme si les choses de Dieu étaient bizarres. C'est quoi cette affaire-là? Mais ce n'est pas logique. Que quand on change de nature, on change de langage. Première chose. Si vous devenez esprit et non plus seulement chair, vous devez parler le langage de l'esprit. Même dans les couvents, les gens ont le langage de l'esprit satanique. Quand ils rentrent en transe là, ils parlent le langage de l'esprit satanique. Première chose. Deuxième chose. Nous avons une autorité en tant que béton sur notre langue. Notre bouche a le pouvoir. Quand vous regardez dans la Genèse, dans toute la Bible, la parole est Dieu. Dieu est la parole. Jésus est la parole. Or, Jésus est le Verbe, Jésus est l'Amen, Jésus est le bras de Dieu. C'est-à-dire, le bras de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le bras de Dieu. La parole est le pouvoir. Aucun féticheur ne te tue par autre chose que la parole. Et Nassak Bédoué, le Bessissa, c'est le commerce de la parole. Vous ne comprenez pas français et fond? Bessissa, c'est-à-dire le commerce de la parole. Les transactions par la parole. C'est pas ça, Yvon? C'est ça que ça veut dire, Bessissa. Quand Satan fait des transactions par la parole, les chrétiens font les transactions par les pleurs. Yeah, il va me tuer, les sorciers, mon oncle. Pourquoi toi aussi tu ne transiges pas par la parole? Alors que tu es fils de la parole. Que tu dis enfant de celui qui est la parole. Et qui a un pouvoir au-dessus de tous les autres. Nous devons pouvoir utiliser le pouvoir de notre parole. Pour créer les choses, pour appeler à l'existence les choses qui ne sont pas. Pour lier les choses que nous voulons et pour délier les choses que nous ne voulons pas. Puisqu'il nous donne le pouvoir de lier sur la terre des choses qui sont liées au ciel et de délier sur la terre des choses qui sont déliées au ciel. C'est un pouvoir absolu. La vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. C'est par elle que nous sommes justifiés ou condamnés. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Le plus grand pouvoir de Dieu et de l'homme, c'est la parole. Et pour ça, les autres animaux ne parlent pas, ils ont des sons. Parce que celui qui peut parler, articuler des mots, a le pouvoir de Dieu qui est la parole. Le problème, c'est que quand tu as la parole, c'est comme quand tu as un cachet. C'est comme quand tu as un sceau. Tu as une signature. Tu as un élément qui donne du pouvoir, de l'autorité, qui rend les choses exécutables quand tu les dis. Mais tu n'as pas toujours la sagesse pour l'utiliser. Je connais plein de présidents, plein de rois qui sont tellement ignares que tout en ayant le pouvoir de dire les choses, s'ils devaient dire les choses, ce serait la catastrophe. Donc il y a des gens dans l'ombre qui leur disent ce qu'ils vont écrire. Soit c'est des gens dans leur village, dans leur chambre à coucher, dans leur église, dans leur mosquée. Les chefs ont pouvoir pour parler. Mais ce n'est pas tout ce que le chef dit qui vient de lui. Mais qui que ce soit qui ait dit ce que le chef dit, quand le chef l'a dit, c'est le chef qui l'a dit, ça a le même effet. Si on sort communiqué, on dit, tuez tout le monde dans le pays. Toute personne qui s'est habillée en rouge, tuez-le. Signez la présidence. On ne va pas se dire que c'est une blague ou que c'est un plaisantin. On dira que le chef d'État a demandé de tuer tous ceux qui sont en rouge. Juste à ce que lui-même, il vienne peut-être dire le contraire. Quand on dit signer le président de la République, docteur, quelque chose, c'est fini. On tue tous ceux qui sont en rouge. C'est ça le pouvoir de la parole de quelqu'un. Ça le représente, c'est son pays. Ça veut dire que si la personne n'est pas sage, non seulement elle va faire des mauvaises choses avec sa parole, mais elle ne fera pas toutes les bonnes choses qu'elle peut faire avec sa parole. elle va détruire des choses et elle va gaspiller des opportunités de bien faire. Comme chacun de nous. Nous avons tous un pouvoir équitable de la parole. Mais que nous gaspillons parce que nous ne savons pas utiliser notre langue. C'est pour ça que Jacques dit que si quelqu'un savait dompter sa langue, il serait plus fort que tout. Voilà, le Saint-Esprit nous a donné le pouvoir de la parole. Il sait que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Il nous a promis la vie. Tu as le pouvoir de la parole, tu ne peux pas l'utiliser. Tu ne dis que des bêtises. Comme je suis au chômage, ce qui veut dire j'appelle le chômage. Comme je suis pauvre, ce qui veut dire j'appelle la pauvreté. Comme je suis malade, ce qui veut dire j'appelle la maladie. Comme il y a cette ou un bon, ce qui veut dire que ma vie est destinée pour la pauvreté. Quand tu utilises ta bouche pour dire ces insanités, ah j'ai 40 ans, je ne suis pas marié, donc je déclare que je ne suis pas marié. Ah j'ai coiffé la Sainte Catherine, donc je vais mourir célibataire. Quand tu utilises ta bouche pour dire toutes ces bêtises, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il faut comprendre le problème de parler la langue d'abord. À part d'avoir pitié pour toi, mais la taux d'enfant ne doit avoir pitié. Donc la pitié ne peut pas le sauver. Le Saint-Esprit dit, comme je suis déjà en lui, et comme je suis moi-même une nature qui a un langage, voilà ce qu'on va faire. C'est sa bouche, c'est son pouvoir. S'il le veut bien, il va me donner le contrôle de sa bouche. Et je vais téléguider sa bouche pour lui. Ça reste sa bouche. C'est comme si le président dit à quelqu'un, on a vu dans certains films, par exemple, vous allez voir quel film j'ai regardé la dernière fois, quand vous regardez l'histoire de Salomon ou de des gens comme ça, il peut donner un tiers conseiller, ou par exemple le roi avec Esther, par exemple, il donne à quelqu'un son cachet. Il dit, écris ce que tu veux, signe, je t'y autorise. Quand tu délègues ton cachet, ou que tu signes un papier à blanc à quelqu'un, tu dis, bon, va écrire dessus le discours que tu veux, va lire à ma place. Je te mets mon cachet et signe. Le gars écrit dessus ce qu'il veut. Ce qu'il dit t'engage. Parler en langue, c'est autoriser le Saint-Esprit qui est désormais en nous. Qu'il connaît le Père, qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, ce qui est parfaitement bon pour nous, qu'il sait toutes choses. Par exemple, toi, le matin, quand tu pries, tu peux prier sur tout, tu ne peux pas prier pour ne pas avoir un accident au carrefour vers le corps. Parce que tu ne sais même pas que quelqu'un t'a planifié un accident au carrefour vers le corps, tu dois te tuer. Mais le Saint-Esprit, lui, le sait. Si c'est toi qui prie, tu ne vas jamais dire, Seigneur, que cet accident ne marche pas. Parce que tu ne le sais même pas. Comment tu vas le dire si tu ne le sais pas? Quand tu as mal au ventre, tu dis, Seigneur, guéris mes maux de ventre. Tu ne diras jamais, fais en sorte que la dame qui est en train de mettre des clous dans mon ventre tout le matin au village de Serouela arrête. Que tu ne sais même pas que c'est là-bas, ça se fait. Donc, le bavardage que nous faisons en disant prier, ne sert à rien. À plus forte raison, si tu récites la même chose, tu ne veux que te taper sur les nez à Dieu en disant que des bêtises. Donc, lui qui sait tout, qui peut tout, qui connaît tout, s'il dit, prête-moi ta langue, laisse-moi la conduire pour toi, où est le problème? Le parler en langue, c'est quand Dieu dit, comme tu as du pouvoir, mais tu ne sais pas l'utiliser, laisse-moi téléguider ta langue. Comme ça, on ne dira pas que c'est moi qui agis, mais en même temps, c'est moi qui agis. Je vais vous donner un autre exemple. C'est comme dans les marchés publics. Si, par exemple, Déborah est directrice ou des ressources financières, matérielles dans un ministère, TFM, par exemple, et elle m'appelle, elle dit, monsieur Guibi, je vais te donner un marché. Voilà, il faut écrire que tu vas vendre telle quantité d'encre, d'imprimante, d'ordinateur, il faut mettre tel prix. C'est elle qui est la DFM. Elle a déjà 4 ou 5 dossiers. Elle connaît les prix. Et elle me écrit sur un brouillon ce que je dois aller écrire. Elle dit, va mettre ça sur ton papier en tête. Signe et amène-moi ça. Parce qu'elle ne peut pas me dire officiellement. Mais quand officieusement, elle me dit quoi écrire, et je mets sur mon papier en tête et que je dépose, je peux perdre le marché là. Parce que celui qui juge est celui qui t'a dit quoi dire. Quand le Dieu qui doit exaucer les prières prie pour toi, comment tu peux jouer? Vous comprenez ou bien vous ne comprenez pas? Si celle qui donne le marché te dit quoi écrire sur son papier en tête, tu peux ne pas avoir le marché. Pourquoi voulez-vous que l'esprit qui exauce les prières prie pour vous et que vous ne soyez pas exaucé? Tous les jours, il y a des témoignages, je m'en dis encore matin, hier. Le Saint-Esprit, tu es là, il peut te faire commencer à prier en langue, tu ne sais pas pourquoi. Quelque chose se passe, tu vois que ça là, tu devais mourir. C'est la désactivation de cette mort là que le Saint-Esprit avait commencé à t'obliger à parler hier. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Mais toi, humainement, tu ne sais même pas ton heure de prière. Tu as quelque chose de prier. Mais le truc te force. Prie, prie, tu veux dormir, la chose se réveille, prie. Tu ne sais pas de quoi tu parles, tu pries. Quand tu vois finalement ce que Dieu a désactivé, tu as même honte. Parce que lui sait toutes choses. Il sonde les profondeurs du Père. Il peut prier efficacement. Il arrive souvent à moi, y compris, tu es tellement fatigué, tu ne peux même pas formuler une requête. Mais moi, même en dormant, je prie parfois en langue. Ce n'est pas compliqué. Tu peux avoir sommeil n'importe comment, tu peux prier en langue. Tu peux ne pas être inspiré, tu peux prier en langue. Quand quelqu'un vient dire prie pour moi, quand je ne sais pas quoi dire, au lieu de commencer à raconter des bêtises, Dieu bénit-le, Dieu délivre-le, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Prie en langue, Dieu sait toujours le meilleur. Prier en langue, c'est demander que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse. Y compris contre tes propres envies. Si par exemple tu es un voleur, tu voles tous les jours. Dieu sait que tel que tu voles là, tu vas faire un braquage dans un mois et les gens vont te lyncher, tu vas mourir. Dieu souhaiterait qu'on t'enferme aujourd'hui pour que d'abord tu ne sois pas tué dans le braquage dans un mois là, mais que tu te répandes. Tu devrais prier pour dire Seigneur, permets qu'on m'enferme rapidement avant la fin de cette semaine. Ce serait ça une volonté parfaite de Dieu. Parce que pour te sauver, Dieu a besoin qu'on t'enferme afin que tu ne sois pas dans le braquage de la fin du mois, qu'on ne te tue pas. Si Dieu te dit de prier comme ça, tu peux prier comme ça. Si Dieu te dit de prier pour qu'on t'enferme avant la fin du mois, tu peux prier. Jamais tu vas prier. Même si tu priais, tu ne vas pas prier de la, selon ta. Tu ne vas pas prier avec foi. Donc tu ne seras pas exaucé. Mais quand tu pries en langue là, parfois tu dis, Seigneur, enferme-moi vite. Il ne faut pas que je sois dans ce braquage. Et on t'enferme. Tu pleures. Mais quelque chose te dit, tout est grâce. Et les gars avec qui tu programmes le braquage, tu as pris dans ce braquage, on les a tous tués. Et Dieu m'a sauvé. Quand tu pries en langue là, tu as dit, Seigneur, enferme-moi vite avant la fin de la semaine. En priant en langue, Dieu te protège contre toi-même pour faire ce qu'il faut quand il faut. Et si les hommes n'aiment pas le parler en langue, parce que moi j'ai eu beaucoup de mal à le faire, parce que prier en langue, c'est accepter d'être bête. D'ailleurs, c'est accepter de se désactiver, de mourir à soi-même, de ne plus avoir envie d'envie, de ne plus pouvoir se vanter qu'on a fait de belles requêtes, de ne plus pouvoir dire, bon, j'ai bien prié, j'ai eu de rhétorique, prions. Et puis, ça nous fait, c'est comme si tu deviens transparent. Tu as même l'impression que c'est trop facile. Tu n'es sauvé que par la grâce. Et on trouve que c'est trop facile. Que c'est trop beau pour être vrai. Que c'est trop simple. Mais c'est ça le salut. Le salut, c'est trop beau pour être vrai. C'est d'être sauvé par la grâce. Ce n'est pas lié au mérite. Afin que personne ne se glorifie. Dieu ne veut pas que tu puisses te glorifier d'avoir été sauvé parce que tu as bien prié. Il veut que tu puisses te glorifier de l'avoir laissé te sauver. Et donc, tant qu'on est orgueilleux, tant qu'on veut se vanter de, j'ai fait de belles prières. Vous voyez, quand on fait la prière, les gens font de belles phrases, on prouve qu'on est capable de parler. Tout ça là, ça crée un mélange d'orgueil. Tu demandes des choses qui ne devraient pas être demandées. Dans le parler en langue, Dieu désactive tout ça. Peut-être que des gens ont besoin que tu pries pour eux. Peut-être que tes frères sont dans les problèmes. Dieu veut que tu pries pour le salut de quelqu'un. Si tu demandes de prier pour ça, tu as dit demain. Quand tu pries en langue, Dieu te fait faire toutes les prières qu'il faut. Il faut prier pour ton pays, il faut prier pour tes enfants, il faut prier pour tes parents. Tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, quand tu pries en langue, tu dépasses ton niveau humain. Dieu fait exactement ce qu'il faut avec ta bouche, sans avoir besoin de ta coopération. Il a juste besoin que dans ton cœur, tu sois d'accord, parce qu'il ne te viole pas. Dieu ne viole jamais personne. Que tu sois d'accord pour lui donner les pleins pouvoirs sur ta vie. Que tu dis, je te donne la clé, je te donne mon cachet, comme tu es Dieu, fais dans ce que tu veux. Fais un acte courageux, hein, de dire à quelqu'un, je te donne mon cachet, écris ce que tu veux en mon nom. Ah, je ne sais pas à qui je vais faire ça. Même à mon épouse, je ne peux pas lui donner mon cachet. Dis, écris ce que tu veux en mon nom. Je vais dire, écris, appelle-moi, demande mon avis. Si je te dis d'accord, tu vas mettre le cachet. Mais dis à quelqu'un, écris tout ce que tu veux en mon nom et cachette. Il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut le faire. Le parler en langue est un acte de soumission et de confiance totale en Dieu. Le parler en langue est aussi un langage de guerre. Dans toute armée, il y a des codes secrets. Le morse, ces différents codes qui permettent aux armées ou aux chefs d'État, par exemple, de se parler entre eux de manière cryptée. On n'envoie pas un message de Paris à Washington ou bien à Berlin en écrivant des courriers que n'importe qui peut lire. On les code. Et même le président ne connaît pas les codes. Il y a un collaborateur du président qui transforme ce qu'il a dit en code, qui envoie en Russie. Un spécialiste là-bas décode et qui donne au président. Entre les deux, quelqu'un intercepte le courrier, il ne peut rien faire parce qu'il ne connaît pas le code. Parce que l'ennemi ne peut pas, doit pas intercepter l'information. Si nous faisons une intrusion, nous allons attaquer ensemble la Syrie demain matin à 6h45. Pas avant, pas après. Si une seule personne le sait, tout est foutu. C'est pareil avec Satan. Tu décides que demain tu vas vaincre tel péché. Satan dit, ah bon, quelle copine l'aimait beaucoup qui n'a jamais eu là? Parfait. Et toi là, lève-toi, va le voir demain matin. Tu as prié? Satan a entendu? Il prépare la réplique. On l'a vu avec Daniel. Daniel a prié, Dieu l'a exaucé. Mais l'ange de Satan est parti bloquer la bénédiction. Il a fallu que l'archange Michael vienne le déboulonner pour que la bénédiction arrive. Quand nous prions, que les esprits mauvais entendent ce que nous demandons. Ils ne dorment pas, nous sommes dans une guerre. Tu dis que tu vas attaquer par à coup demain matin. Le démon prévient le démon qui a par à coup. Fais dormir les militaires qui sont là-bas, donne-leur des prostituées la nuit pour qu'ils s'amusent bien, donne-leur beaucoup de choukoutou pour qu'ils boivent beaucoup, parce que des gars vont attaquer demain, il faut qu'ils aient des problèmes. Si tout est désactivé, tu veux attaquer. Les soldats sont en train de dormir, ils ont baissé toute la nuit, ils sont en train d'être saoulés. Tu fais quoi? Tu as dit manque de chance, c'est pas manque de chance. Satan a entendu tes plans et il les a déjoués en utilisant ses démons. Mais quand tu pries en langue, la Bible dit qu'il n'y a que le Père qui comprend ce que tu dis. Ni les anges, ni Satan, ni personne ne te comprend. Il n'y a que le Père lui-même qui te comprend. Toi-même, l'apôtre, tu ne te comprends pas. Il n'y a que l'Esprit de Dieu en toi et l'Esprit de Dieu là-bas qui communique. Ce qui te protège absolument. Et tu peux déjouer beaucoup de choses ainsi. Le parler en langue te permet aussi de prophétiser sur ta vie. Parce que tout a été fait avec la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Cela veut dire que, quand par exemple Dieu t'a promis de te bénir, quand arrive l'heure tu dois être béni, il doit sortir une parole. Tu dois prophétiser certaines choses. Tu dois déclarer certaines choses. Notre vie se joue par des paroles. Quand tu pries souvent en langue, tu permets à Dieu de te bâtir, de t'équiper, de te fortifier, de te consolider et d'activer ta destinée, d'ordonner les différentes étapes de ta vie. En priant en langue, c'est comme si il doit arriver un moment où tu dis, bon Seigneur, l'heure a sonné. Aujourd'hui, je dois changer de niveau. Tu as prévu de me lever aujourd'hui. Le jour est arrivé. Honore ta parole. Toi, tu ne sais pas que le jour est arrivé. Comment tu as fait cette prière-là? Quand tu pries en langue ce jour-là, le Saint-Esprit dit ça ce jour-là. Quand le Saint-Esprit dit ça ce jour-là, ton élévation arrive. Parce que lui connaît les plans du Père pour toi. Il peut faire la prière parfaite pour toi. Je ne saurais donc. Il y a des enseignements qu'on a donnés sur le Saint-Esprit et sur le parler en langue. Vous pouvez amener des clés USB et les copier. Je ne saurais suffisamment insister donc sur l'importance du parler en langue. Et comment reçoit-on le parler en langue? Ce n'est pas compliqué. Première chose, il faut donner sa vie à Jésus. On l'a déjà vu, en long et en large. Si quelqu'un n'a pas confessé Jésus, si quelqu'un n'a pas reconnu que Jésus est Seigneur et Sauveur, si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, si quelqu'un ne s'est pas abandonné à Jésus, lui demandant de le pardonner, de se purifier, de prendre le contrôle de sa vie, il n'est même pas né d'eau, comme il veut naître d'esprit. Première chose, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de se baptiser d'eau pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais il faut au moins avoir confessé Jésus, avoir cru en Jésus, en précisant que c'est en croyant du cœur qu'on est justifié, mais en confessant de la bouche, on parvient au salut. C'est la première étape. Deuxième étape, il faut faire une prière. Celui qui veut recevoir le Saint-Esprit doit désirer. Alors ça, je ne l'ai pas dit. Quelle est la condition pour recevoir le Saint-Esprit? Il y en a une seule, le désirer de toutes ses forces. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi c'était la seule condition. Vous savez, personne ne peut donner le Saint-Esprit à quelqu'un. Vous n'avez jamais vu dans la Bible que tel apôtre a donné le Saint-Esprit. On dit, tel apôtre a prié, ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Personne ne peut le donner parce qu'on donne ce qui appartient à ce qui vous appartient. Donc, pour que quelqu'un donne le Saint-Esprit, il faudrait que le Saint-Esprit lui appartienne. Or, il n'appartient à personne. Il s'est donné lui-même à la terre, à l'humanité, à la Pentecôte. Et depuis, comme Jésus l'a dit, il est là avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Il est là pour nous consolider. Il est là pour faire mieux que Jésus lui-même. C'est pour ça que Jésus dit, il est avantageux que j'aille auprès du Père et que je l'envoie. Moi, je suis venu préparer le terrain. Lui vient maintenant accomplir en vous la gloire. Donc, le Saint-Esprit n'est pas un violeur. Le Saint-Esprit n'est pas un braqueur. Et ce n'est pas un objet de musée ou de cinéma. Et quelqu'un va dire, bon... Les gens sont entrés par le Saint-Esprit. S'il veut venir, il n'a qu'à venir, on va voir. Si tu es dans cet état d'esprit, tu ne le verras jamais. C'est de la foutaise. Pour qu'un chef d'État aille chez quelqu'un, la personne doit le désirer ardemment. Il doit l'aimer. Il doit être prêt même à tout, à vendre, à écrire, à se mettre à genoux, à supplier, à faire le pied de grue. Il doit le désirer ardemment comme le plus grand trésor, la plus grande chance de sa vie. Pour un simple homme. Hein? Alors quand vous parlez de recevoir Dieu, si vous faites le genre, bon, il paraît qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Saint-Esprit, il n'a qu'à arriver, on va voir. On ne le désire pas ardemment. On peut encore confesser Jésus comme ça. Mais pour que Dieu vienne habiter en vous, et vous ne pouvez pas mentir, hein? Pour mentir aux hommes, vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Si vous n'avez pas une faim de Dieu, si vous ne réalisez pas le privilège que vous avez, la chance que vous avez, l'honneur que vous avez fait, la grâce que vous avez fait, que Dieu accepte de venir habiter en vous, Et vous êtes là comme spectateur en disant, bon, ils ont dit, ils vont faire baptême, fait d'esprit, donc à on va voir, vous ne le verrez pas. Et le Saint-Esprit m'expliquait que il n'y a qu'à le recevoir. On ne donne pas le Saint-Esprit, on le reçoit. Votre prière doit être, Seigneur, je veux te recevoir. Il ne faut pas dire, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit. Je veux te recevoir, il est là. C'est comme si quelqu'un dit, Seigneur, je veux respirer. Tu peux vouloir respirer? Respire, l'air est là. L'esprit, c'est l'air. Il ne faut pas dire, Seigneur, donne-moi de l'air, je veux respirer. Non, respire. Si tu ne respires pas, c'est que tu as fait comme ça. Dis, Seigneur, tu veux respirer, respirer. Ouvre le nez. C'est toi qui as fermé ta vie. Il dit, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, je rentre. Tu ne peux pas dire, Seigneur, viens chez moi. Il dit, moi, je suis à la porte depuis. C'est toi qui as fermé ton cœur à cause du péché. C'est toi qui avais choisi de faire comme tu veux. Si tu ouvres la porte, tu n'auras même pas besoin de m'inviter, je viendrai. Écoutez, quand tu prends une bouteille qui était fermée, quand tu ouvres, l'air te demande ton avis avant de rentrer dedans. Mais il faut l'ouvrir. Si tu mets une bouteille fermée dans l'eau, tu dis, bon, il faut que l'eau rentre dans la bouteille, tu essaies de plonger la bouteille fermée dans l'eau. L'eau va rentrer dans la bouteille. Mais dès que tu ouvres la bouteille, que tu plonges dans l'eau, l'eau rentre forcément. Il faut accepter de s'ouvrir, de s'abandonner, de se plonger et de désirer sincèrement qu'il vienne. C'est alors qu'au moment où vous priez pour le recevoir et où moi je vais prier aussi pour que vous le receviez, et je vais vous imposer les mains parce que le Saint-Esprit se transmet aussi par imposition des mains de ceux qui l'ont déjà. Ceux qui l'avaient déjà dans la salle vont être en train de prier aussi. Prier en langue pour ceux qui vont le recevoir. Eh bien, vous le recevez simplement par la foi. Ne cherchez pas un truc extraordinaire. Évitez de tomber, pas la peine de faire la comédie. Pas besoin de tomber, de faire des agitations. Quand vous respirez, vous ne tombez pas. Il peut arriver effectivement que vous sentiez certaines choses physiologiques, une grande paix, certains vont trembler un peu, ainsi de suite. Ça dépend de chacun. Mais on n'a pas besoin de faire du cinéma pour recevoir le Saint-Esprit. Pas plus qu'on ne fait du cinéma pour respirer. On a juste besoin de croire que Dieu est avec nous tous les jours, mais que là, on va le recevoir. Et quand on dit « recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus », il dit « on le reçoit par la foi ». C'est-à-dire que c'est en le croyant que tu l'as. Or, certains disent « bon, ils ont dit que je l'ai reçu, je vais voir qu'est-ce qui va se passer ». Tu ne l'auras jamais parce que tu veux le voir pour le croire, alors que tu dois le croire pour le voir. Vous voyez la différence? Tu dois le croire pour le voir. Certains sont là. Tu sens qu'ils veulent voir quelque chose se passer d'extraordinaire pour commencer à le croire. Ils ne le verront pas. Parce que Dieu dit qu'il faut le croire pour le voir. Quand on dit reçois le Saint-Esprit, tu ne dois pas à la fois savoir qu'il est déjà là. Ce n'est pas possible qu'il ne soit pas là. Il est forcément déjà là. S'il n'est pas là, c'est que tu n'as pas cru en lui. Point final, il n'y a pas d'explication. Si tu le crois, tu le verras. À moins de croire qu'il peut mentir. Mais si tu crois qu'il peut mentir, pourquoi tu le cherches? Toi, tu veux abriter un menteur? Moi, je ne veux pas. Hein? Ou bien, si tu crois qu'on peut dire reçois le Saint-Esprit qui ne vient pas, c'est que tu crois que Dieu est menteur? Comment tu peux vouloir abriter un menteur? Il faut savoir ce que tu veux. Mais si tu crois que ce n'est pas un Dieu menteur, ce Dieu dit, je suis pressé de venir en toi. Si tu m'appelles, je viendrai. Quand on te dit qu'il est là, tu sais qu'il est là. Tu n'as pas besoin de voir quelque chose. Tu sais qu'il est là. Et parce que la foi est la démonstration de ce qu'on attend, si tu sais que quand il est là, tu as reçu le nouveau langage de l'esprit, tu ouvres ta bouche et tu parles la langue. Comment? Ce n'est pas ton problème. Ouvre ta bouche, laisse-la parler. Il y a des gens qui sont là. Ils disent qu'ils ont parlé la langue. On dit d'ouvrir ta bouche, que lui parle. Toi, tu fermes ta bouche, tu attrapes bien tes dents. Et tu attends de voir si ça va parler. Quoi, Dieu va prendre des manivelles pour ouvrir ta bouche? Il va ouvrir ta bouche de force. Ce n'est pas un violeur, ce n'est pas un braqueur. Tu dois ouvrir ta bouche, l'articuler, peut-être essayer de dire merci Seigneur. C'est-à-dire, tu laisses ta bouche fluide, détendue. Tu vas voir qu'à un moment, ta langue va s'emballer. Quand elle est emballée, ne la retiens pas. Parce que des fois, on la retient. On a un peu l'impression que quelque chose d'anormal se passe. Libère-la, ouvre la bouche encore plus, parle. C'est en parlant qu'on parle. Laisse-la parler. Souvent, parfois, on a un peu honte, on se dit, mais je vais dire des bêtises, les gens vont me regarder. Mais le salut est personnel. Hein? Si tu as honte de Dieu, c'est ton problème. C'est pas de quoi tu vas pas prendre sur la terre.
Que Dieu vous bénisse.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution est...